Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 24 avril de 18 à 21h, en différé jeudi 25, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Reconquête, bonsoir. Ah, ça fait très drôle le retour. Comment ça se fait? C'est extraordinairement désagréable.
J'ai rien dans les oreilles.
Oh, ouais, mais commencez pas à geindre, on vous fait des beaux micros. On vous donne tout beau et puis vous ronchonnez.
J'ai l'impression de parler dans un bidon.
Bah, moi, j'ai rien, j'entends rien du tout.
Mais... Oui, c'est pas grave, ça. Ah ben, vous avez entendu la voix du commandant Bunel. Pierre-Henri Bunel, bonsoir.
Bonsoir.
Qui sera un de mes invités ce soir. Un autre invité, c'est le père Argouache, qui est là aussi. Bonsoir, mon père.
Bonsoir.
Nous attendons également des amis qui vont nous parler du pèlerinage de Chartres, mais vous savez bien que ça n'est pas le bon sujet et que la chose dont on va parler, c'est naturellement l'événement considérable qui vient de se passer, c'est-à-dire qu'il fait beau. On a un très très beau temps de fin d'avril, quoi. Pratiquement pas se découvrir d'un film, mais il fait beau quand même. Alors, j'ai réfléchi à la façon dont on pouvait parler de cet événement, puis je me suis dit que finalement la meilleure idée c'était peut-être d'inviter Jean-Marie Le Pen. Bon. Et ce que j'ai fait, le problème c'est que Jean-Marie Le Pen est à Bruxelles, donc au Parlement européen, pour des entretiens avec la presse étrangère. Et il m'a promis de nous appeler vers 6h15. Donc si vous voulez bien patienter jusqu'à 6h15, normalement, Jean-Marie Le Pen, s'il a été libéré par nos amis de la presse étrangère...
Il l'avait pris en otage ?
Oui, bien sûr. Oui, ils ont fait plusieurs voyages. Nous appellera et nous pourrons avoir un petit entretien sur la situation actuelle. Avant, donc, je vais évoquer quelques petites questions d'actualité ou quelques petites choses amusantes dans l'actualité. J'ai par exemple trouvé dans le Figaro un droit de réponse qui vous montre quand même... c'est intéressant parce que ça montre bien à quel point les médias sont maintenant... Enfin, on est dans un monde de fous furieux, voilà. Vous avez vu tout ce qui se raconte, tout ce qui se dit sur Jean-Marie Le Pen, le fascisme est à nos portes. Que dis-je, le fascisme, le nazisme? Que dis-je, le nazisme, le diable? Et pendant ce temps-là, le Figaro publie le droit de réponse suivant. Monsieur Georges Baudarel réagit à trois articles parus dans le Figaro des 9, 18 et 19 mai 2001. Vous m'avez une nouvelle fois mis en cause à propos de mon passé pendant la guerre du Vietnam en 1952, en développant une symétrie douteuse entre mon cas et celui du général Ossarès en Algérie. J'ai déjà démontré que mon rôle s'était borné à tenir des discours pacifistes dans un camp de militaires français prisonniers. J'ai reconnu mes erreurs, c'est-à-dire pour l'essentiel d'avoir été jusqu'au bout de mes idéaux anticolonialistes de l'époque, dans un contexte qui se révéla d'une extrême dureté par l'action conjuguée du blocus imposé par le corps expéditionnaire et du climat. Je peux pas vous relire chaque phrase trois fois, mais c'est hallucinant ce qu'on lit. C'est hallucinant, il n'y a pas d'autre mot. Je n'ai encore, en tout cas, jamais commis de crime. Et votre journal, Le Figaro, a été condamné pour diffamation à ce sujet. Alors déjà, le fait qu'un type comme Boudarel ose poursuivre un journal, et puisse poursuivre un journal en France, aujourd'hui, c'est hallucinant. Bon, le fait que le journal soit condamné, ça me ferait, si j'étais pas un citoyen respectueux, ça me ferait douter de la justice de mon pays. Mais Dieu merci, comme tous les imbéciles, j'ai confiance dans la justice de mon pays, c'est à ça qu'on les reconnaît. Et alors il ajoute, Monsieur Boudarel, depuis plusieurs années, je me suis engagé contre la répression qui, alors naturellement, qui frappe les écrivains et les intellectuels au Vietnam. Vous vous rendez compte de ce qu'il ose écrire et de ce que le journal est obligé de publier? Et j'ai encore écrit récemment au président vietnamien pour solliciter la libération du prêtre dissident Nguyen Van Ly. J'attends le même genre d'attitude de la part de ceux qui considèrent encore aujourd'hui qu'ils n'ont rien à se reprocher. Alors moi, si vous voulez, il se trouve que mon père est enterré à Dien Bien Phu, où il a donné sa vie. Il est mort pour la France, mort au champ d'honneur. Et moi, je suis pupille de la nation. Et M. Boudarel était le complice objectif des gens qui ont tué mon père. Et quand je lis ça, quand je lis que ce type ose dire, ose faire condamner des journaux qui ont simplement raconté ce qu'il a fait quand il était commissaire politique dans un camp de la mort vietnamien, Viet Minh, et qu'il ose dire qu'aujourd'hui il intervient pour la libération d'un prêtre, et il emploie le mot, c'est formidable, parce que là le stalinien se trahit,
dissident,
c'est un prêtre dissident. Donc vous vous dites, véritablement, il y a quelque chose qui ne va pas quoi dans cette société. Je me demande jusqu'où ça ira. Mais je crois qu'il faut réellement que cette société change. Et là, je trouve qu'on n'est pas trop mal parti pour qu'elle change. Et ça serait vraiment dommage de s'arrêter en si bon chemin. C'est une des questions d'actualité que je voulais évoquer. Il y en a une autre qui est relative à la peine de mort. Récemment, on a appris que M. Patrick Henry avait vendu ses impressions de Tollard à Paris Match, avec une belle photo de lui, où il a expliqué qu'il allait écrire un livre, il était en train d'écrire un livre dans lequel il allait raconter comment il avait assassiné un enfant, qu'il l'avait caché sous son lit, comment il avait été arrêté, comment il avait été assassiné cet enfant pour obtenir une rançon de la part des parents de cet enfant. Et comment il aurait dû être condamné à mort et tué comme une bête sauvage, une bête malfaisante, mais comment, grâce à M. Badinter, qui a fait un beau discours, il a pu être épargné et il a été condamné à la prison à vie, moyennant quoi, il est sorti de prison il y a quelque temps, il a dû trouver du travail tout de suite. Il y a des gens qui cherchent du travail depuis des années, lui en sortant de tôle, il a trouvé du boulot. Et maintenant, il se pavane et il donne des leçons, il explique sa vie, il va expliquer que voilà, tout ça va très bien, etc. Et M. Badinter, qui en a profité pour faire un petit retour dans l'actualité, a dit que maintenant, la question de la peine de mort est une question évacuée, que plus personne n'osait revendiquer le rétablissement de la peine de mort. C'est un mensonge. Alors, c'est étonnant que M. Robert Badinter mente. Moi-même, j'en suis surpris. Mais enfin, en l'occurrence, c'est vrai. Il a menti, puisque il y a au moins quelqu'un qui a revendiqué le rétablissement de la peine de mort avec un argumentaire extrêmement sérieux à l'appui. C'est Maud Marin. Maud Marin, qui est écrivain, qui est avocate, actuellement sans emploi, parce que personne ne veut la faire travailler, puisqu'elle a été décrétée d'interdiction par la gauche. Elle a donc écrit un livre qui s'appelle « Que messieurs les assassins commencent », où elle explique, d'une part, ce qui se passe réellement dans les prisons, ce qui se passe réellement quand les gens sont condamnés à la prison à vie, à perpétuité, avec des peines des peines incompressibles. Mais elle explique aussi ce qui se passe quand on libère les gens qui sont condamnés à la prison, à la réclusion perpétuelle, elle explique comment le système gauchiste, se déploie pour faire libérer ces gens-là, comment, en général, ils retombent dans la délinquance et dans la criminalité, comment, à ce moment-là, les gens de gauche qui se sont engagés pour les faire libérer se dégagent discrètement en disant « ben nous, on est pour rien, je m'en lave les mains, je suis absolument pas responsable de tout ça ». Et elle explique aussi comment ces gens-là récidivent et pourquoi certains criminels sont absolument irrécupérables. Et on sait très bien, il y a une étude qui a été faite par un spécialiste, que dans les cas d'assassins d'enfants, il a étudié, je crois, 397 cas de criminels de cette nature. Et il a évalué 397 cas, je crois, de gens qui, ayant tué, ont été libérés. Et il a compté le nombre des récidives. Est-ce que vous avez une idée du chiffre des récidives ?
Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais que c'est très élevé.
C'est 397. C'est-à-dire, c'est 100% de récidives. 100% de récidives. C'est pas 90%, c'est 100%. Alors, je ne sais pas si M. Patrick Henry va récidiver ou pas. Je peux pas l'affirmer. Mais je peux dire qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que M. Badinter ment quand il dit qu'il n'y a personne qui soutient le rétablissement de la peine de mort. Il y a au moins un homme politique, c'est Jean-Marie Le Pen. Et il y a au moins un écrivain, c'est Maud Marin, qui a fait un bouquin formidable dans lequel elle démontre la nécessité de restaurer cette clé de voûte du système pénal français. Pas pour l'appliquer comme des bêtes brutes, on n'est pas des talibans.
Ni des Américains.
Ni des Américains, oui, merci, commandant Bunel. Mais comme des gens qui ont conscience que le rôle d'un État, c'est de protéger la société avant de protéger les criminels. Et je vous conseille de lire ce livre, qui est vraiment un livre très argumenté, extrêmement intéressant, avec des révélations assez étonnantes sur le fonctionnement de la justice, et surtout sur le noyautage des institutions judiciaires, par tous les systèmes de lobby, toutes les petites polices de la pensée, les petits flics, les petits manipulateurs politiques, etc. C'est toujours les mêmes, bien entendu. Ce livre s'appelle « Que messieurs les assassins commencent » et il est paru il y a maintenant un peu plus d'un an. Et à la suite de ce livre, il faut dire que Maud Marin, l'auteur, qui était déjà dans une situation extrêmement délicate, s'est carrément retrouvée mise au banc de tout le système. C'est-à-dire qu'elle n'est plus reçue nulle part, elle n'a plus voix à aucun chapitre, elle ne peut plus publier, son éditeur ne veut plus la publier parce qu'il a eu trop d'ennuis avec son livre, les radios ne lui donnent plus la parole, les télévisions ne la reçoivent plus, les journaux refusent de parler d'elle, et elle est véritablement dans une situation catastrophique. Donc, elle vend son livre elle-même. Je vous invite à le commander. Il vaut 20 euros franco. Et vous ne serez pas du tout déçus. C'est un excellent bouquin. Et vous pouvez le commander. Donc, ça s'appelle « Que messieurs les assassins commencent ». Vous pouvez le commander à Maud Marin, boîte postale 182, 46 000 Cahors. Boîte postale 182, 46 000 Cahors. Vous joignez un chèque de 20 euros au nom de Maud Marin et vous recevrez ce livre par retour. Voilà. Je voulais évoquer cette question qui est tout à fait d'actualité. Maintenant, on va parler un petit peu de l'actualité, d'une actualité plus brûlante en attendant Jean-Marie Le Pen et notamment de ces manifestations. Manifestations spontanées, comme disait la journaliste de TF, de je sais pas si c'est TF1 ou MC, enfin je ne sais plus quelle chaîne de télévision, qui le soir des résultats a dit les Verts, elle était donc chargée de suivre les résultats chez les écolos, et elle a dit Noël Mamère vient de décider d'organiser une manifestation spontanée.
Organisons l'anarchie.
C'est une méthode typiquement stalinienne qui consiste à organiser des manifestations spontanées, donc qui sont parfaitement spontanées et très bien organisées. Bien
absolument, parce que à mon avis, il faut qu'elles soient bien organisées spontanément, parce qu'il faut quand même dessiner toutes les banderoles.
Voilà, et on a pu voir d'ailleurs que ces banderoles étaient soigneusement imprimées.
Bien sûr.
et soigneusement calligraphiées, et chose curieuse, alors là, je ne sais pas qui était là pour les faire, mais il n'y avait pas de faute d'orthographe, ou très peu. La croix gammée était naturellement à l'envers, mais enfin ça c'est de rigueur.
C'était un imprimeur professionnel.
Oui, c'est probablement ça. Je vous dis, la seule chose qui montrait quand même certain amateurisme, c'était la croix gammée qui était à l'envers, qui était sinistrogyre, enfin dextrogyre plutôt, alors que la vraie, je le signale aux amateurs, est sinistrogyre. En fait, il faut bien reconnaître que ces manifestations, elles n'ont que l'importance que les médias leur donnent, parce que on nous dit, il y a 100 000, tous les jours, on nous apprend tous les soirs qu'il y a 100 000 jeunes qui ont défilé dans toutes les villes de France. Alors d'abord, ça ne veut pas dire qu'il y a 100 000 jeunes dans chaque ville de France, ça veut dire 100 000 jeunes en tout dans les villes de France. Et en fait, les 100 000, à mon avis, on peut facilement réduire de moitié, voire des deux tiers, pour approcher la réalité. Et sur ces probablement 30 000 jeunes qui défilent, il y en a plus de la moitié qui sont à l'évidence, il suffit de regarder les manifestations, qui sont des jeunes qui n'ont pas le droit de vote. Il s'agit donc de collégiens, parce que maintenant, quand on n'a pas le droit de vote, on est collégien, puisque pour entrer au lycée, maintenant, il faut avoir au moins 18 ans. Hein. Le bac, c'est vers 25-26 ans. Bac plus 10, c'est 5 ans vers la retraite, maintenant. Donc, ces jeunes, qui, comme l'a dit Le Pen, feraient mieux d'être chez eux à faire leurs devoirs. Mais quand ils sont chez eux, ils font pas leurs devoirs, ils regardent la télévision, ils jouent avec des jeux vidéo. Pourquoi ils sont dehors? Parce qu'il fait beau. Parce qu'il y a un beau soleil et que donc c'est beaucoup plus marrant de se balader dans la rue en se prenant pour des résistants, comme dirait Monsieur Arditi. Vous savez que le soir des résultats, Monsieur Arditi a dit « Maintenant, il faut entrer en résistance ». Et il a dit trois fois. Et il y a un journaliste qui lui a dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire pour entrer en résistance ?» Et il a dit « Eh ben pour la première fois de ma vie, je vais voter Chirac ». Donc c'est facile. Maintenant, si vous voulez avoir la médaille de la résistance, avant il fallait avoir de la famille chez les francs-macs. Maintenant, si vous voulez la médaille de la résistance, il faut voter Chirac. C'est quand même encore plus simple, hein. C'est comme en Corse.
Je connais les compagnons de la Libération qui ne voteront jamais Chirac.
Oui, mais eux, ils ont la vraie médaille de la résistance. Mais maintenant, c'est la médaille de la résistance en chocolat. Donc, en Corse, dans le temps, vous savez, il y avait un truc. Quand il y avait deux candidats qui étaient rivaux dans une élection, un des candidats se mettait à la porte avec deux cartons. À gauche, il avait les chaussures gauche. À droite, il avait les chaussures droite. Et il donnait au gars qui entrait les deux bulletins de vote. Le sien et celui de son adversaire, plus la chaussure gauche. Et il disait, en sortant, tu me rendras le bulletin de l'adversaire, je te donnerai la chaussure droite. Hein? Et alors maintenant, donc vous entrez, vous prenez le bulletin de vote Le Pen et le bulletin de vote Chirac, en sortant, vous rendez le bulletin de vote Le Pen, ça veut dire que vous avez voté Chirac, à ce moment-là, vous avez droit à une médaille de résistance. C'est quand même très, très, très commode. Et donc, ces gosses manifestent, ils sont d'ailleurs poussés par les professeurs ou par les enseignants. Mais il y a des choses marrantes. Par exemple, une maman d'enfant qui a ses enfants dans une école catholique m'expliquait que en classe, on a parlé politique à ses enfants. Ils ont 9 ans. 9 ans, c'est pas vieux quand même. Et on leur a expliqué ce qu'était la gauche, la droite et l'extrême droite, bien entendu. On leur a dit que Jean-Marie Le Pen était un méchant raciste. Et sa fille aînée, qui a 15 ans, elle a téléphoné à maman sur le portable, avec son portable à elle, en disant « Maman, il y a au collège-lycée Saint-Félix de Nantes, où elle est, cette jeune fille, on organise une manifestation contre Le Pen et une grève. Et j'ai besoin de votre autorisation pour participer à la grève. » C'est une famille quand même où on sait parler aux parents. Et donc, la maman a dit, non seulement je ne vais pas te donner mon autorisation, mais tu vas me faire le plaisir de rentrer à la maison en vitesse, et puis je vais téléphoner à la directrice. Elle a téléphoné à la directrice qui venait d'apprendre le projet de grève manifestation, et qui a décidé de ne délivrer aucune autorisation de sortie pour participer à la manifestation. Ce qui veut dire que quand les enfants, les collégiens et lycéens manifestent, c'est parce que non seulement ils y sont poussés, mais ils y sont autorisés officiellement par les directeurs d'établissement, puisqu'ils défilent à des heures où normalement ils devraient être en classe. Bon. Alors, d'autre part, on nous dit qu'il y a 100 000 manifestants. Moi, je veux bien, 100 000, ça paraît énorme comme ça, mais en réalité, 100 000 manifestants, si on ramène à la réalité qui est probablement plus proche de 50 000, Le Pen, il y a eu 5 millions d'électeurs. Donc, 50 000 merdeux qui marchent dans la rue pour dénoncer le vote de 5 millions d'électeurs, je ne sais pas si c'est ça la démocratie. Moi, je ne suis pas démocrate, donc je ne peux pas donner la définition de la démocratie. Mais j'ai entendu parler de la démocratie. J'en ai jamais vu, mais j'en ai un petit peu entendu parler. Et je pense que c'est pas ça qui était dans le projet initial du système. C'est certainement pas 50 000 merdeux de 14 ans qui dictent par la rue leur volonté à 5 millions d'électeurs officiellement en carte. Mais enfin, bon, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'au Cambodge, c'était ça. Dans le Kampuchea démocratique, on sait bien qu'il y avait des gosses de 12-13 ans qui appliquaient la démocratie avec des mitraillettes. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
On a déjà les Kalachnikovs dans les quartiers.
Yeah, oui, mais alors ce qui est curieux, c'est que les quartiers, on les voit très très peu. Hein. Ils attendent les fins des manifs pour faire des descentes, pour casser un peu. Ils sont allés voler des bouteilles de champagne chez Maxime's, ce qui n'est pas une bonne idée d'ailleurs, parce que je ne suis pas là qui a le meilleur champagne, je leur dis tout
de suite. C'est ce que j'allais dire.
Mais enfin, bon, ils ont cassé la vitrine de chez Maxime's. C'est rigolo d'ailleurs, parce qu'à l'époque, Maxime était un haut lieu du lepenisme. Ça doit être une erreur. En fait, ça émeut beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup d'appels de gens qui me disaient « Mais c'est quand même très grave, ces manifestations. » C'est pas grave du tout. Les manifestations au mois de mai, ça a toujours existé. Et puis, les gens sensés ne bougeront pas. Vous savez, il y a un vieux principe de stratégie, je parle sous contrôle d'un officier, qui est « Il faut pas bouger ». Il y a un très très beau film japonais qui s'appelle Kagemusha, qui est une pure splendeur. Et pendant un long plan, on voit les deux armées qui se font face à face, dans une immobilité absolue. Et à un moment, à la fin de cette séquence, on voit dans l'armée qui est en face un étendard qui se déplace, visiblement porté par un cavalier, et qui se déplace légèrement. Et à ce moment-là, le personnage qui est au premier plan, qui appartient à l'armée adverse, voit ça et se tourne vers son chef et lui dit... La montagne a bougé, ils sont perdus. Et effectivement, ils vont perdre la bataille. Parce qu'ils ont été les premiers à bouger. Or, il faut dire que depuis dimanche 20h, les autres bougent énormément. Et ils bougent d'une façon un peu hystérique et assez rigolote finalement. Ils bougent de toutes les manières. Par exemple, il y a eu l'appel au meurtre. Alors, je sais pas, il y a eu carrément un appel au meurtre sur France 2. Il était 23h25. David Pujadas était en train d'interroger Jean-Marie Le Pen, qui était à son bureau de Saint-Cloud, du paquebot à Saint-Cloud. Et d'un seul coup, l'écran est devenu noir et on a vu apparaître une petite découpe circulaire braquée sur le visage de Le Pen, exactement comme si on le voyait à travers un viseur de fusil. Bon, on peut en tirer des conclusions interminables sur le rôle de l'image subliminale ou sur l'allusion subliminale, tout ce qu'on veut. Mais c'était très frappant. Il était vraiment désigné comme une cible. Sur le socle de la statue de Jeanne d'Arc, aujourd'hui, on peut lire « Brûler Le Pen ». C'est les fours crématoires. Hein ?
Ben oui.
Le Pen dans les durafours crématoires. Donc on lui reproche d'avoir un jour fait un jeu de mots sur durafours crématoires qu'il n'avait pas inventé. D'ailleurs, c'était le canard enchaîné qui l'avait fait, le premier. Mais maintenant, on veut l'envoyer, lui, au crématoire. Mais ça, c'est démocratique. Attention, il y a le crématoire fasciste et le crématoire démocratique. Il ne faut pas confondre. Hein.
Est-ce qu'il y a des filtres pour éviter la pollution ?
Ah, j'espère, oui. J'espère. Et puis il y a, par exemple, au bureau de poste de la rue de Clignancourt, me disait un auditeur, les gars, les employés du bureau de poste de Clignancourt avaient carrément affiché sur la vitre de séparation de l'Igiaphone, comme on disait dans le temps, la une de Libération avec le portrait de Le Pen et les trois lettres non. Ils avaient affiché ça en transparence. Et alors, ça aussi, c'est comique, parce que s'il y a des vitres blindées comme ça, c'est bien parce qu'il y a de gros problèmes d'insécurité dans les bureaux de poste, et que les gars sont sans arrêt importunés, ils sont victimes de violences, d'agressions verbales et d'agressions physiques. Et ils disent, ces gens qui sont à l'abri derrière des vitres blindées, se servent de ces vitres blindées qui sont le témoignage de l'insécurité et de la criminalité galopante, pour coller des affiches qui reprochent au fond à Le Pen d'avoir dénoncé la criminalité et l'insécurité. C'est un joli paradoxe aussi, tout ça. Et puis, il y a d'autres méthodes de lutte, de propagande sournoise. Alors, ça prend des proportions qui sont carrément comiques. Par exemple, sur RTL, le lundi matin, un journaliste a dit que il y avait eu un léger séisme dans la région de Concarneau. Et il a dit textuellement, c'est la région natale de Jean-Marie Le Pen, à qui on associait encore hier le mot séisme, mais cela n'a peut-être aucun rapport. Peut-être. C'est-à-dire que vous avez voté Le Pen, la terre tremble. Hein? Si votre, si vos vaches avortent, c'est parce que vous avez voté Le Pen. Si vous avez une tempête, vous avez perdu vos filets, c'est parce que vous avez voté Le Pen. Il faut savoir, ça porte malheur de voter Le Pen. Tout ça dit par des gens qui sont des, naturellement des rationalistes déterminés. Et il y a d'autres formes de trucage. Par exemple, sur FR3, au journal télévisé de Soir 3, ils ont invité une dame qui est maître de conférence à l'université de Nantes. Et on lui a demandé à cette maître de conférence de bien vouloir interpréter les propos de Jean-Marie Le Pen. Alors elle s'est lancée avec toute l'autorité que lui confère son... son titre de maître de conférence, dans une analyse sémantique extrêmement serrée des propos de Jean-Marie Le Pen. Hein? Cette dame, elle s'appelle Marie Souchard. Personne ne nous a dit, et en tout cas pas le journaliste de Soir 3, que Marie Souchard, quand elle n'est pas maître de conférence à l'université de Nantes, elle collabore à un groupuscule terroriste qui s'appelle Ralfron. Et elle publie sur le site de Ralfron, le site internet du groupuscule terroriste Ralfron, des éditoriaux, dont le dernier est particulièrement crapuleux, puisque il est intitulé « Le crépuscule ». Alors, elle fait toute une variation sur le mot « crépuscule ». Je vais vous le lire, parce que vous allez voir la pensée tordue, ce que c'est. Quand ils disent « crépuscule », quand ils disent « crépuscule », les dirigeants des FN, alors N écrit naturellement H-A-I-N-E, mais ce ne sont pas eux qui disent « crépuscule ». Eux, ils disent plutôt « aube nouvelle » ou « homme nouveau ». Alors que les gens n'ont jamais dit ni crépuscule, ni aube nouvelle, ni aube nouveau, qui est de la terminologie stalinienne. Mais continuons. Pourtant, crépuscule leur appartient. Madame Souchard a décidé que crépuscule appartenait au Front National. Voilà. De celui des dieux à celui des camps, le crépuscule est bien au principe de l'extrême droite. Mais alors, qui dit crépuscule? Ceux qui voudraient pouvoir croire que l'extrême droite est à la veille de disparaître. Ceux qui consacrent leur énergie à s'en persuader et à en persuader les autres. Ceux qui rêvent qu'il suffit de dire le crépuscule de l'extrême droite pour qu'enfin elle s'éteigne. Et que veulent-ils quand ils lisent... Bon, il y en a... Je vais pas tout vous lire parce qu'il y en a une page. C'est des trucs de toqué, ça.
Apparemment, elle connaît pas bien le dictionnaire, parce que le mot crépuscule, c'est la période qui précède immédiatement le lever du soleil ou immédiatement le coucher du soleil. Ouais. C'est-à-dire, il y a le crépuscule du matin et le crépuscule du soir.
Mais peut-être pas bien parler français, Madame Souchard. Bon. Alors, voilà le genre d'experts que la télévision d'État convoque pour parler d'une situation politique. En démocratie, c'est-à-dire que les Français ont voté, ils ont voté au premier tour pour Chirac, et en deuxième position pour Le Pen, et en troisième position pour Jospin. Et c'est comme ça.
Est-ce que ces commentaires font partie du temps de décompte de la propagande
des uns et des autres? Non, pas du tout. Si Jean-Marie Le Pen téléphone là, et que j'ai un quart d'heure d'entretien avec lui, ça fera partie du décompte du temps d'antenne. Mais quand Madame Souchard fait ses variations toqué sur le crépuscule du soir, c'est pas compté, là. C'est de l'insulte, c'est de la propagande. Oui, madame.
On vient de recevoir plusieurs messages d'auditeurs qui nous disent que la conférence de Jean-Marie Le Pen sur RTL, enfin, elle a entendu sur RTL que la conférence de Jean-Marie Le Pen au Parlement européen a été annulée à cause d'une manifestation anti-Le Pen.
Ah.
Et il y avait... Enfin bon, il y avait un peu de commentaires, mais c'est tout. Oui. Et donc il n'a pas pu tenir sa conférence de presse.
Bon, j'espère qu'il aura quand même le temps de nous appeler. Alors, il n'y a pas seulement les Madame Souchard ou les étudiants boutonneux ou les lycéens collégiens boutonneux et travaillés par le prurite du printemps qui s'occupent des questions de l'actualité et de défendre la démocratie. Il y a aussi les autorités morales. Alors on a par exemple, alors les autorités morales c'est rigolo comme tout. Vous avez la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, de Jean-Michel Lemétayer, qui a appelé à voter pour Chirac, en disant bien entendu, nous sommes parfaitement neutres. Ils disent tous ça, tous les syndicats disent, nous observons scrupuleusement la neutralité. Sauf pour Le Pen, bien entendu. Ils sont neutres pour tout le monde, sauf pour Le Pen. Alors donc, les circonstances sont exceptionnelles, a dit Monsieur Le Métayer. Exceptionnelles avec la présence du candidat d'extrême droite au second tour. C'est-à-dire, on décrète qu'il est d'extrême droite et on dit que c'est exceptionnel. Effectivement, c'est exceptionnel, c'est la première fois que ça arrive. Mais quand c'était les communistes, ça gênait personne. les communistes qui sont quand même les complices d'un système, les complices objectifs et actifs de, d'un système qui a fait au moins 200 millions de morts. Quand M. Marchais venait à la télévision, qui lui était objectivement une crapule stalinienne et un complice des assassins staliniens, personne ne s'émouvait de sa présence. Alors, M. Le Bétayer ajoute, les valeurs du monde paysan ne sont pas celles de M. Le Pen. Moi, je voudrais, si j'étais en face de M. Le Métayer, je dirais, voilà, vous avez 10 minutes pour me dire quelles sont les valeurs du monde paysan, et 10 minutes pour me dire quelles sont les valeurs de Le Pen, et puis ensuite, vous les comparez, et vous m'expliquez pourquoi c'est pas les mêmes. Ça serait très intéressant, ça. Mais c'est pas la peine de s'expliquer, il suffit de dire les valeurs sont pas les mêmes, tout le monde a compris. Et alors, il cite comme exemple, quand M. Le Pen parle de sortir de l'Union européenne, nous, on a besoin de plus d'Europe pour défendre notre politique agricole. C'est quand même un aveu formidable, ça.
C'est pas le même paysan que ceux que je connais.
Non, c'est pas tout à fait. Moi, je voudrais bien... D'ailleurs, j'ai jamais rencontré un paysan qui soit membre de la FNSEA. Alors, c'est... Je crois que la FNSEA, c'est pas tellement un truc de paysan. Je crois que c'est plutôt un truc qui est fait pour se goberger sur le dos des paysans.
Comme le Crédit Agricole.
Un peu, c'est ça, voilà. Ouais. Et ça, ces gens-là sont aussi paysans que les éleveurs sont vaches. Ouais. C'est la même relation, quoi. C'est-à-dire, ils vivent avec les vaches, les éleveurs. Les laitiers, par exemple, ils vivent avec les vaches. Exactement de la même manière que le Crédit Agricole ou la FNSEA vit avec les paysans. Alors, il a estimé que le vote Front National des Paysans était un vote de désespoir face au monde de l'agriculture qui a un problème de revenus. L'agriculture est passée à côté de la croissance, dit-il, et aimerait aussi bénéficier du progrès social. Moyennant quoi, il appelle à voter pour un type qui a été ministre de l'Agriculture, qui a été Premier ministre, qui a été président de la République, qui a été en charge des affaires. Il a été Premier ministre en direct d'un président qui était comme lui. Il a été Premier ministre dans la cohabitation. Il a été président avec un Premier ministre qui était comme lui. Et il a été président avec des Premiers ministres de cohabitation. Donc il a une responsabilité totale sur le fonctionnement du pays depuis 20 ans. Eh bien, les paysans qui disent on est passé à côté de la croissance et on est dans le fond du trou parce que depuis 20 ans ou 30 ans, la politique menée par en France est une politique de destruction de la paysannerie française. Il ajoute, par conséquent, il faut revoter pour celui à cause duquel on est dans cette situation. Et ce type vient vous voir en disant, attendez, moi je suis sérieux, je suis le président de la FNSEA. Comment vous voulez pas éclater de rire? Alors il y en a un autre qui est un spécialiste rigolo, c'est monsieur Béranger évêque de Seine-Saint-Denis. Alors lui, il a dit une chose formidable. Il a eu une phrase extraordinaire pour un évêque quand même. Il a dit, on n'a pas besoin de sauveur.
C'est intéressant.
Ah, c'est un beau propos pour un évêque. On n'a pas besoin de sauveur. Bon. Il a en outre déploré que Jean-Marie Le Pen ait osé citer les paroles de l'Évangile, dénonçant avec la plus grande fermeté les mots prononcés dimanche par le leader « N'ayez pas peur, chers compatriotes, entrez dans l'espérance ». Autrement dit, pour faire plaisir à Béranger, il aurait fallu que Le Pen dise « Ayez peur » et entrez dans le désespoir. Là, Béranger n'aurait rien pu dire. Mais il a horreur, Béranger, qu'on cite l'Évangile. Il n'a pas besoin de sauveur, premièrement. Et deuxièmement, il ne faut pas qu'on cite l'Évangile.
Et il a dit quelque chose sur la fiche de film ou la croix.
Non, alors justement, il avait absolument rien dit quand on a transformé la croix chrétienne en croix gammée. Il n'a jamais rien dit sur l'avortement. Il n'a jamais rien dit sur l'extension de l'islam dans son diocèse. D'ailleurs, il reçoit les imams copains comme cochons, si j'ose dire, pardon, à boire le thé ou autre chose. Il n'a rien dit sur les injures, les innombrables injures contre l'Église, soi-disant antisémite et soi-disant complice du génocide. Enfin, il n'en a que contre Le Pen. Heureusement, tout le monde n'est pas de son avis dans l'Église. Par exemple, Mgr Lustiger, il s'est prononcé d'une façon discrète et à mots couverts, mais quand on le lit soigneusement, tout à fait pour le vote en faveur de Jean-Marie Le Pen. Comme Mgr Picard, qui est porte-parole des évêques. Car, écoutez bien ce qu'a dit Lustiger. Son éminence, le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris et autre lieu découvert à marée basse. Il a dit, j'appelle à une prise de conscience générale après l'élection. Autrement dit, il y a eu une prise de conscience, le fait que Le Pen soit deuxième, ça montre qu'il y a une prise de conscience. Les Français ont pris conscience qu'il fallait en finir avec ce système de corruption, de victoire de la culture de mort. Et donc, il y a un début de prise de conscience. Et Lustiger dit, maintenant, il faut une prise de conscience générale. Autrement dit, prenez tous conscience de la situation dramatique dans laquelle nous sommes et réagissez. Donc, votez Le Pen, c'est bien clair. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Et Mgr Picard, président de la Conférence des évêques de France, il a demandé pour sa part que l'on fasse appel à l'intelligence plutôt qu'à l'instinct, au discernement plutôt qu'à la seule spontanéité, à la sérénité plutôt qu'à la peur. Alors, le discernement, la spontanéité, on le sait, c'est les manifestations spontanées. On nous dit, manifestations spontanées partout en France. Donc il dit, faites plutôt appel au discernement. Donc ne participez pas aux manifestations spontanées, faites preuve de discernement. Autrement dit, si vous n'êtes pas avec ceux qui sont contre Le Pen, vous êtes avec Le Pen. Ensuite, il dit, il faut faire appel à la sérénité plutôt qu'à la peur. Tous les mecs qui manifestent et qui veulent couler Le Pen au deuxième tour disent, on a peur de Le Pen, on a peur du fascisme, on a peur de... Donc il ne faut pas céder à la peur, il faut agir dans la sérénité. Votez Le Pen. Et faites appel à l'intelligence plutôt qu'à l'instinct. Là, ce n'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Hein, parce que évidemment, s'il faut choisir l'intelligence plutôt que l'instinct, c'est-à-dire l'instinct, pour un évêque, ça veut dire la connerie. Il ne peut pas dire décemment la connerie. Donc lui, comme il est bien élevé parce qu'il est évêque, il dit l'instinct. Donc il y a deux candidats. Il y en a un qui est intelligent et l'autre qui est un imbécile. Je vous laisse deviner. Il ne peut décemment pas le dire, lui. Enfin, moi, j'ai une idée quand même. Ça fait 7 ans maintenant qu'on a pu vérifier quand même que les choses sont assez claires. Puis je vais vous donner des textes tout à l'heure qui vont vous montrer à quel point c'est réellement un imbécile. Celui que Mgr Picard veut battre. Et donc, si vous écoutez Lustiger et Picard, vous voterez Le Pen. Si vous écoutez Béranger, il fallait voter U au premier tour. Mais c'est raté. Hein. Et puis alors, il y a tous les gens de gauche aussi qui... Alors, François Hollande... Premier secrétaire du PS, il a dit « Il faut voter contre Jean-Marie Le Pen. Et quand vous votez contre Jean-Marie Le Pen, vous votez forcément pour le candidat qui reste. Entre deux bulletins, Le Pen ou Chirac, nous voterons Jacques Chirac. » Marie-Charles Buffet, elle a dit, la secrétaire nationale du Parti communiste, « Il faut utiliser le bulletin de vote Jacques Chirac pour faire en sorte que le candidat Le Pen soit le plus bas possible. » Alors là, on peut lui faire confiance parce que, en ce qui concerne l'utilisation du bulletin de vote pour que le candidat soit le plus bas possible, avec eux, ils ont réussi le coup d'une façon parfaite. Donc là, peut-être que... Mais seulement, il ne représente que 3%. Arnaud Montebourg, député socialiste de Saône-et-Loire. Alors ça, c'est Arnaud Montebourg, c'est le nouveau Joseph Prud'homme. Vous savez, ce sabre est le plus beau jour de ma vie, je m'en servirai pour défendre la République et au besoin pour la combattre. Vous connaissez la phrase célèbre. Alors Montebourg, il a dit, qu'on sache que la voix que je pourrais donner à Jacques Chirac, c'est pas sûr, mais que je pourrais donner à Jacques Chirac, ne vaudra que pour la défense d'une République que ce dernier a malheureusement piétiné et déshonoré lui-même. C'est-à-dire, pour défendre la République, votez pour celui qui l'a déshonoré.
C'est pourtant lui qui voulait le conduire en justice.
Et c'est lui qui voulait l'envoyer en tôle. C'est superbe, non? Mais remarquez, le juge Alpen a dit la même chose. Hein, il voulait envoyer Chirac en prison, maintenant il dit qu'il faut voter pour lui. C'est fabuleux, quand même. Qu'est-ce qu'ils ont comme... Quelle est la dimension morale de ces personnages?
Le juge Alphen, il a dit, entre super menteur et super facho, le choix est facile à faire.
Oui, mais c'est pour une raison très simple, c'est que super menteur... Enfin, vous vous rendez compte... Attendez, je m'arrête un instant sur le juge Alphen. Le juge Alphen, on sait que le gang pro-Chirac a essayé de le salir, l'a diffamé d'une façon ignoble, a fait courir les pires rumeurs sur sa vie privée, a essayé de soudoyer son beau-père... pour l'entraîner dans une histoire pourrie, etc. Tout ça, ce gang, c'est Schuller, c'est ces gens-là qui ont fait ça. C'est les hommes de Chirac. Et maintenant, ce juge, il appelle à voter pour le type qui a été à l'origine de ça. Je vous le dis, à force, je vais perdre confiance dans la justice de mon pays.
Oh.
Non, mais ça va finir par arriver un jour. Ça va, je me retiens, mais bon... Qu'est-ce qu'il y a encore? Noël Mamère, dans le choix impossible entre un imposteur et un pourri. Hein, là, je vous le dis. C'est lui qui dit ça. Entre un imposteur et un pourri au second tour de la présidentielle, les Verts doivent certes barrer la route à l'extrême droite, mais ne peuvent se contenter de cela. Donc il faut aussi barrer la route à Chirac. Alors, comment on va faire pour barrer la route à Chirac et à Le Pen en même temps? C'est difficile.
Hein. Manifestations spontanées.
Les manifestations spontanées, voilà, c'est ça. Voilà, alors je suspends cette revue de l'actualité pour une revue d'une actualité bien plus brûlante, Jean-Marie Le Pen, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, on a appris que...
Je ne sais pas combien de temps je pourrais rester à l'antenne, parce qu'on nous demande d'évacuer le Parlement européen, les manifestants risquant de l'envahir et de s'en emparer.
Démocratiquement, je pense.
Démocratiquement, bien sûr. Alors, je n'ai pas pu tenir... J'ai pris la parole au Parlement sur l'affaire du Proche-Orient, n'est-ce pas ? Et je n'ai pas pu tenir ma conférence de presse. Il y avait, je sais pas, une trentaine, une quarantaine de caméras et 150 journalistes. Et ça n'a pas été possible parce que la salle était truffée de manifestants de gauche et d'extrême gauche, menés d'ailleurs par un député socialiste anglais bien connu qui s'appelle Glenford et qui ont entarté un de nos vieux collègues flamands, Monsieur Dillon,
ah oui.
et aussi notre collègue Martinez, qui a quand même tenu la tribune, mais les collègues m'ont déconseillé de me rendre là, car c'était évidemment une embuscade démocratique, comme
mais
vous savez.
Il n'y a pas de service d'ordre. Il n'y a pas de service d'ordre
Il y a un service d'ordre
au Parlement.
Vous savez, il est discret et pas très efficace.
Donc, en tout cas, les journalistes étrangers étaient là. Ils ont pu voir le fonctionnement démocratique des institutions.
Je crois que s'il était besoin de montrer que nous n'étions jamais les agresseurs, mais toujours les agressés, je pense qu'il y a un certain nombre de gens, s'ils sont de bonne foi, qui ont pu le constater.
Alors, en dehors de cet événement, Jean-Marie Le Pen...
Oui,
qui est tout chaud, effectivement.
On n'est pas encore sorti du Parlement.
Le Parlement est toujours...
sortir intact.
Oui. Le Parlement est toujours encerclé par la racaille.
Oui, qui crie Le Pen salaud, le peuple aura ta peau, qui est évidemment une forme de dialogue démocratique bien connue.
En tout cas, ils sont pas très forts dans la création littéraire, parce
que ça fait un moment que ça dure.
Avant, c'était Chirac, salaud, le peuple aura ta peau, Giscard, salaud, le peuple aura ta peau.
Maintenant, ils collent les affiches de Chirac.
Oui, oui.
Enfin, Chirac a les partisans qu'il mérite.
Oui, ça c'est clair. Ça. Mais au fond, tout ça est tout à fait moral. Comment est l'ambiance générale? Comment sentez-vous les choses? Parce que je vous pose cette question parce que les gens qui regardent la télévision, qui écoutent la radio, en province notamment, ont une espèce d'angoisse. Ils se disent, ça va si mal que ça, il y a vraiment des manifestations, c'est dangereux, est-ce qu'on va pas vers une émeute généralisée, est-ce qu'on va pas vers la guerre civile? Vous-même, comment ressentez-vous la chose?
Non, mais tout ça est artificiel. Le pays est extrêmement calme. D'ailleurs, il y a un baromètre qui ne trompe pas dans les pays capitalistes, c'est la bourse.
La bourse, bien sûr.
N'est-ce pas ? La bourse est parfaitement stable, beaucoup plus qu'elle l'était quand c'était Mitterrand qui arrivait au pouvoir. Hein ?
Vous savez quand même que Guillaume de Tarlet, sur Europe numéro 1, a trouvé quelque chose à dire le lendemain de votre élection. Je ne sais pas si vous avez pu avoir... de votre sélection, je dirais.
Oui.
Il a dit que si le franc existait encore, il se serait effondré.
Oui.
C'est quand même joli. Si ma tante en avait, elle aurait peut-être été élue présidente de la République.
Mais... Absolument. Mais ces jeunes gens, enfin même, oui, à peine, ces adolescents, qui étaient dans les rues, et qui auraient dû d'ailleurs être dans leur classe à cette heure-là, y étaient amenés par leur maître et par leur professeur, dont on sait qu'ils sont très largement, en tous les cas dans certains lycées, imprégnés de marxisme militant ou de gauchisme activiste. Mais tout ça, ça représente très peu de monde. Si on regarde la statistique, j'ai obtenu 1 million de voix dans les 18-24 ans. C'est beaucoup plus que les 50 ou 100 000 personnes qu'on a vues dans les rues dans toute la France. Par conséquent, il faut bien relativiser les choses. Et les syndicats qui vont soutenir Jacques Chirac et ainsi que ses amis du MEDEF, le baron Seyer et Monsieur Messier, ça va pas être très facile. Hein. Il faut faire le grand écart quand on est syndicaliste, cégétiste.
Ouais, ça va être compliqué quand même.
Oui, ça va être compliqué. Mais, ma foi, je pense que tout ça va vers le meilleur, et aussi et surtout à cause du refus de Chirac d'accepter le débat démocratique qui était de tradition au deuxième tour de l'élection présidentielle.
Mais je pense que vous vous attendiez à ce refus.
Oh, je m'attendais parce que je savais qu'il avait aussi peur de la vérité que la taupe de la lumière. Et que comme moi, je ne fais pas partie du gang de la bande des quatre, qu'on ne me tient pas par la barbichette ni par la reniflette, je pouvais poser des questions qui fâchent.
Oui, c'était un peu le risque.
Et comme sans doute il a quand même une longue expérience politique, il s'est dit, voilà, si je refuse, je me tire une balle dans le pied, je perds 5 points dans les sondages. Oui. Si j'y vais, ça sera terrible,
une balle dans la tête.
Je perdrai 10 points.
Oui,
donc
ça.
Il a fait un calcul, somme toute, enfin, apparemment au moins, sur l'immédiat, un calcul positif.
Est-ce qu'on peut vous demander en un scoop, une exclusivité, quelle est la première question que vous lui auriez posée?
La première question que j'aurais posée à Jacques Chirac, la première, comme ça, parce que je suis au Parlement européen, c'est: vous aviez promis un référendum sur le traité d'Amsterdam, vous avez trahi votre promesse.
Mais vous croyez pas que si vous aviez commencé à énumérer les promesses trahies, ça vous aurait pris une partie de la nuit quand même?
J'aurais pu aussi lui poser, parce que je suis en train de lire un livre terrifiant qui s'appelle Noir Chirac, un certain nombre de questions sur Elf. Je ne savais pas qu'il était très mêlé aux histoires de Elf. C'est vrai qu'il y avait Caseta et tout ça, mais j'aurais pu lui poser des questions sur les HLM de la ville de Paris, sur les... Bref,
beaucoup. Ça aurait été désagréable, en somme.
Mais il n'y a pas que ça. Je lui aurais surtout posé la question, ne vous sentez-vous pas coupable d'avoir, depuis 20 ans, assuré toutes les victoires de la gauche, d'abord à partir de celle de Mitterrand en 81, qui vous a renvoyé l'ascenseur en 95 en vous faisant soutenir par son ami Berger, qui est un homme d'influence, de grande influence, et aux élections législatives, dans la plupart des cas, aux élections régionales, à chaque fois, en amputant la droite, qui est structurellement majoritaire dans notre pays. Hein, on peut dire que, grosso modo, structurellement, c'est 45-55.
Hein. Oui, Griotrey disait lundi dans l'émission de Jean Ferry qu'il estimait à 57%, je crois.
Oui, peut-être, mettons voilà. 55. Oui. Hein, 55-45. Il est bien évident que quand Chirac ampute les 55 des 15% de voix des électeurs du Front National, ben, ça fait plus que 40.
Oui, ça, c'est à la portée d'un calculateur moyen, ça.
Voilà. Mais est-ce que, par exemple, quand il a dissous en 97... a-t-il vraiment souhaité reconduire une assemblée de droite? Ou plutôt, n'a-t-il pas délibérément créé cette occasion de faire venir la gauche au pouvoir?
Alors moi, j'ai toujours pensé, effectivement, qu'il l'avait fait à dessein, qu'il
oui,
avait organisé
oui.
l'accession de la gauche.
Certaines personnes pensent qu'il est sot, d'autres
pensent
qu'il est plus retors
oui,
que ça.
C'est évident. Puis surtout, je pense qu'il est très paresseux.
C'est possible, il laisse faire les choses.
Il était très content de plus rien avoir à faire.
Alors, combien de temps allez-vous garder l'antenne, Serge?
Je garde l'antenne jusqu'à
19h30. Le problème, c'est que je me trouve donc en Belgique actuellement, et je ne sais pas si je vais pouvoir vous tenir, parce que là, je suis dans mon bureau, et je ne sais pas si je pourrais vous tenir sur mon portable pendant que je serai en Belgique. C'est pas impossible, mais c'est... Je vais essayer, si vous voulez.
Écoutez, Jean-Marie Le Pen, ce que je vous propose, c'est... Vous essayez de nous rappeler?
Oui.
Si la conversation passe, eh bien...
On continue.
On s'en félicitera. Sinon, est-ce qu'avant, il y a un message que vous voudriez faire passer
Eh bien, écoutez, le message
auditeurs.
Que je veux faire passer est le suivant. Ne désespérez jamais. Ne nous avons jamais vaincu. Vous savez, quelquefois, après un tremblement de terre, on a dit que c'est un tremblement de terre dimanche dernier.
Oui, on vous a même accusé d'en avoir provoqué un à Concarneau.
Il reste des immeubles debout. Et puis, il y a quelqu'un qui passe et qui éternue, et brusquement, l'immeuble s'effondre. Parce qu'il était miné. On a vu ça avec l'Union soviétique.
Hein? Oui, absolument.
Par conséquent, la défaite de Chirac n'est pas exclue au deuxième tour. Et je voudrais bien, personnellement, être l'instrument de cette défaite qui marquerait la possibilité d'un renouveau français. Car il est tellement emblématique du système, tellement emblématique de la bande des quatre, que si jamais il chutait, eh bien je crois qu'il y aurait énormément de choses qui redeviendraient possibles en France.
Jean-Marie Le Pen, merci. Donc je vous libère, si j'ose dire. Je vous laisse le soin de sortir du piège.
Au revoir.
Bon courage. On est avec vous et peut-être à tout à l'heure. Voilà. Alors, finalement, j'ai compris pourquoi l'appel avait été un petit peu tardif. Et vous avez compris avec moi que la situation est obsidionale. démocratiquement, c'est bien ça.
C'est ce que j'allais dire, démocratiquement, faut pas oublier le mot.
Donc je continue, si vous voulez, à faire le tour des gens qui se sont mobilisés contre la bête immonde. Alors, on a vu Monsieur Montebourg, on a vu Noël Mamère. Arlette Laguillé a appelé l'ensemble des travailleurs, et en particulier ceux qui ont voté pour Le Pen, à ne pas voter pour lui. Car en plus d'être un ennemi du monde du travail, il est porteur d'une idéologie qu'il faut absolument condamner. Elle a dit, il ne faut pas voter pour Le Pen. Alors, la moindre des choses, quand on est la patronne de la Ligue communiste... Non, ce n'est pas la Ligue communiste révolutionnaire, c'est lutte ouvrière. Travailleurs, travailleuses, ne votez pas pour Le Pen. Vous voyez dans quoi, c'est lui qui fait le plus gros score chez les travailleurs et les travailleuses. Mais, enfin, je ne vais pas encore attaquer les fonctionnaires parce que ce n'est pas le moment. Christiane Taubira a dit, je ferai tout pour empêcher M. Le Pen d'être président. Si cela doit se traduire par le vote en faveur de M. Chirac, cela se traduira ainsi. Donc, Française, vous êtes au courant, Mme Taubira va voter Chirac. Vous ne savez pas qui c'est Mme Taubira ?
Si, je sais qui c'est, mais je croyais qu'il y avait le secret de l'isoloir.
Elle dit ce qu'elle veut, s'il a envie de dire que ça prend, je pense que ça va intéresser au moins deux ou trois personnes.
Tant que ça.
Oh, bah oui, sa famille directe. Jean Saint-Josse. Alors Jean Saint-Josse, c'est Adémaï Chasseur. J'en parle beaucoup autour de moi, mais apparemment, il y a très peu de gens qui savent qui était Adémaï. Adémaï, c'était un des grands comiques du cinéma d'avant-guerre. On a eu Adémaï Aviateur, on a eu Adémaï Soldat. Et tout. C'était un parfait crétin, Adémaï. Un abruti prodigieux. Et on a vu Saint-Josse l'autre jour à la télévision. Pardon.
L'acteur était Noël.
Ouais, joué par Noël, absolument. Et alors, on a vu Saint-Josse l'autre jour à la télévision, et c'était la résurrection d'Adémaï. Et il était tellement comique que même le journaliste qui l'interviewait ne pouvait pas se retenir de se foutre de lui. Parce que c'était vraiment un des personnages. Bon, cela dit, je ne suis pas prêt d'aller à la chasse avec lui. D'abord parce que je ne vais pas à la chasse, mais en plus parce que s'il est aussi adroit avec un fusil qu'avec un micro, bon, vu les accidents de chasse, ça va devenir extrêmement risqué le métier. Voilà, alors lui, il a dit, compte tenu des résultats et pour confirmer ma déclaration d'hier soir, j'appelle à éliminer l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle. La seule façon d'y parvenir, c'est de voter pour Jacques Chirac, comme le feront tous les républicains de gauche et de droite. Alors, il faut savoir quand même qu'il est membre du RPR, il a été élu RPR. Mmh. Donc on peut pas dire que c'est la surprise du siècle. Hein. Bon. Christine Boutin, elle a dit qu'elle réunirait ses trois supporters mardi pour définir une position. Est-ce qu'elle a défini une position, Christine Boutin ? Missionnaire, alors ?
Non, ça, c'est pas beau de ça. Non, mais je pense qu'elle s'est déjà exprimée sur la question, me semble-t-il.
Je sais pas,
ça va dans le sens qu'on peut imaginer.
Ah bon ? Comme Mme Taubira, alors ?
Oui.
Ah, c'est bien. André Labarrère, il appelait la mort dans l'âme. Il appelle la mort dans l'âme à voter Chirac au deuxième tour, bien que son score au premier tour soit plutôt pitoyable. José Bové, porte-parole de la Confédération paysanne, quand M. Le Pen dit « je suis de gauche socialement, de droite économiquement et français nationalement », c'est la définition du national-socialisme. Vous ne saviez pas ça, hein ?
Ah ben non. Hein ?
Voilà. Et il ajoute « si je n'étais pas privé de mes droits civiques, je voterais certainement pour Chirac ». Et ça, c'est fabuleux parce que c'est le multirécidiviste qui vote pour le roi du non-lieu.
Qui c'est qui a dit ça ?
Bové.
Oh ! Michel a parlé de ses droits civiques ?
Ouais.
Ah bon.
Michel Alliot-Marie, présidente du RPR, a déclaré que le moment est venu de refonder l'Union. Alors elle, c'est comme les poupées qui parlent, on appuie sur le ventre, et le moment est venu de refonder l'Union, le moment est venu de... Les poupées disent, maman j'ai soif, ou maman pipi, non. Michel Alliot-Marie, c'est le moment est venu de refonder l'Union. On lui appuie sur le ventre tous les 15 jours, elle dit ça. Donc là, elle a dit ça, parce que c'est la seule phrase qu'ils ont sur la puce qui fonctionne à l'intérieur. Et elle a quand même ajouté, face à la situation actuelle qui traduit une désaffection de nos électeurs... et même une fracture civique entre les Français et la politique, j'estime le moment venu de refonder l'Union de tous les partis. De refonder l'Union, voilà. Madeleine et Barrou, ils n'en veulent pas. Parce qu'eux, ils se disent, bien sûr, la France est en danger. Ils veulent pas refonder l'Union. Parce que, bien sûr, la France est en danger. Le fascisme est à nos portes.
Ils ne veulent pas d'Alliot-Marie non plus.
Mais il y a quand même la gamelle. Et si on refonde l'Union, on n'aura jamais notre portefeuille de ministre. Donc, il ne faut pas d'union. Il faut se mettre d'accord entre nous. Bon. Comme ça, Madeleine sera ministre de je ne sais pas de quoi, et Béraud, il sera ministre de l'Éducation nationale, où il a déjà été étincelant il y a quelques années, il faut bien le dire. Monsieur Roger Karoutchi, sénateur et président du groupe RPR au Conseil régional d'Île-de-France, il a dit c'est incontestablement la volonté de sanctionner, parce qu'ils sont forts dans l'analyse politique quand même, faut pas. De sanctionner et l'inquiétude qui ont dominé un vote de protestation contre l'insécurité, l'excès de communautarisme, la remise en cause de l'unité nationale. Voilà. Il est fort, Karoutchi. Alors, et Philippe de Villiers, qui fait comme Madeleine et Barrault, lui dit, c'est pas le moment de finir. Hein. Non, d'abord... Non. Mais Jospin, là-dedans, qu'est-ce qu'il dit, Jospin ? Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Jospin ? Ça, c'est quand même un truc fabuleux, parce que Jospin, il a fait une déclaration extraordinaire au Monde, hier, page 7 du Monde daté d'hier, enfin daté d'aujourd'hui.
Ah, il passe en page 7 maintenant.
Ouais. Oui. Personne n'a repris cette déclaration. Le Monde écrit « Le Premier ministre ne laisse pas, à la différence des autres ténors socialistes, de consignes de vote. » Vous avez bien entendu, hein. Le Premier ministre ne laisse pas de consignes de vote. Ceux qui le connaissent bien savent son énervement de voir dans la rue cette gauche protestataire qui s'est abstenue dimanche ou a choisi l'extrême gauche et qui aujourd'hui crie au danger fasciste. Donc il n'est pas content des passifs. Il ne donne pas d'ordre. Il ne donne pas de conseils de vote. Il dit, alors Le Monde ajoute, il dit seulement cette phrase étrange. Deux points, ouvrez les guillemets. Écoutez bien la phrase de Jospin. Le choix est difficile. Je ne veux pas peser dans un sens ou dans l'autre. Réfléchissez-y bien. Essayez d'être dans la réalité, pas dans les mythes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, bon, premièrement, je ne donne pas de directive de vote. Hein, c'est bien. Le choix est difficile. Le choix est difficile entre Chirac et Le Pen. Pour Jospin, socialiste. La seule qui dit la même chose, c'est Arlette Laguiller. Quels sont les points communs entre Jospin et Laguiller?
Trotsky.
Voilà. Le choix est difficile, premièrement. Deuxièmement, je ne veux pas peser dans un sens ou dans un autre. Je ne veux pas dire voter Chirac contre Le Pen. Ou voter Le Pen contre Chirac. Je ne veux pas. Troisièmement, réfléchissez-y bien. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre cette décision à la légère. Elle est grave, cette décision. Réfléchissez bien. Essayez d'être dans la réalité, pas dans les mythes. Qu'est-ce que c'est la réalité? La réalité, c'est qu'on a un président de la République qui se représente alors qu'il est totalement discrédité, qu'on sait qu'il a aux fesses des dizaines d'affaires, toutes plus graves les unes que les autres, et qu'il a été traité par les socialistes de pourris, de corrompus, de voleurs, de supermenteurs depuis des mois. Arnaud Montebourg a essayé de l'envoyer en prison, on l'a dit tout à l'heure. Le juge Alphen a essayé de l'inculper. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que c'est que le mythe? Le mythe, c'est que Le Pen est fasciste. C'est forcément un mythe. Pourquoi? Parce que si Le Pen était réellement fasciste, les lois en France permettraient de le mettre en prison et d'interdire qu'il soit candidat à une élection. Et ça fait des années, ça fait 20 ans que le système combat Le Pen, par tous les moyens, par la diffamation, par la calomnie, par l'injure, par la menace, par le silence, par l'enterrement, par les provocations, par les fausses affaires, les montages. Jamais ils n'ont pu le prendre en flagrant délit de manifestation de caractère fasciste, parce qu'autrement, il serait en prison. Il serait privé de ses droits civiques, il ne pourrait pas être candidat. Donc le mythe, c'est de prétendre que Le Pen est fasciste, alors que on n'a jamais pu l'établir d'une façon suffisante, malgré une justice pourrie aux ordres, malgré des journaux pourris aux ordres, malgré des hommes politiques pourris qui veulent avoir sa peau, jamais ils n'ont pu y arriver. Donc Le Pen dit, faites la différence entre la réalité de la corruption et le mythe du fascisme. C'est formidable comme déclaration. Mais pourquoi il dit ça? Parce que, attendez, Jospin, c'est pas une petite sœur des pauvres, hein. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a une analyse qui est extrêmement simple. La gauche plurielle ou unie n'a pas du tout intérêt à voter Chirac. Ils le savent, mais ils ne peuvent pas le dire. Tout leur jeu consiste donc à dire, les Strauss-Kahn, tous ces gens-là, tout leur jeu consiste à dire, je vais voter pour Chirac, et ils ne vont pas voter pour Chirac. Moi, je vous le dis, ils ne voteront pas pour lui. Ils feront semblant. Pourquoi? Parce que la seule chose qui les intéresse aujourd'hui, les présidentielles pour eux c'est terminé, c'est cuit les présidentielles. La seule chose qui les intéresse c'est les législatives. Si Chirac écrase Le Pen, avec l'appui des voix de gauche, c'est-à-dire s'il fait 80% et que la gauche fait 20%, que Le Pen fait 20%, Chirac devient le sauveur de la démocratie. Il est auréolé de cette victoire formidable. Aux législatives, comment la gauche va-t-elle pouvoir dire ne votez pas pour ce type, c'est un corrompu, c'est un voleur, c'est un voyou? Ils peuvent pas, ils viennent d'appeler à voter pour lui. Et en plus, il a eu la peau de Le Pen. Donc la gauche, elle est dans la luzerne aux législatives. Elle n'aura que des miettes. Et en plus, son électorat lui en voudra à mort d'avoir fait élire Chirac. Qui va ramasser la mise? Arlette, parce que Arlette ne sera pas prononcée. Et tous les gauchistes, enfin tous les socialistes purs et durs diront, ah non, alors là, nous, voter pour ces salauds qui ont fait triompher Chirac, il n'y a rien à faire, on vote Arlette. Donc le Parti Socialiste est mort dans ce cas-là. En revanche, si la gauche ne vote pas pour Chirac, Chirac peut gagner les élections à 55-60% contre Le Pen à 40-45%. À ce moment-là, la gauche dira « Heureusement qu'on était là, parce qu'autrement, Le Pen passait. C'est pas Chirac qui a battu Le Pen. C'est nous qui l'avons battu. » Par conséquent, Chirac n'a réalisé qu'un score médiocre. C'est pas lui qui a sauvé la démocratie. Et en plus, vous vous rendez compte, Le Pen avec 40-45% des voix. Mais alors là, le danger fasciste est à nos portes, vraiment. C'est beaucoup plus dangereux. Avant Chirac, on avait un Le Pen à 20%. C'était dangereux, mais ça pouvait passer. Mais à cause de Chirac, maintenant il est à 40 ou 45%. Là, il y a véritablement un danger. Donc, votez pour nous. Parce que nous avons fait la preuve que nous sommes les seuls à pouvoir lutter efficacement contre Le Pen. Chirac, il est incapable de le faire. Si la gauche obtient la majorité aux législatives, ce qui sera possible, puisque Chirac ne voudra passer aucun accord, interdira à tous ses candidats de passer des accords de désistement mutuel avec la droite nationale. Donc, la gauche gagnera. La gauche sera majoritaire. À la sortie des élections, il y aura une chambre à majorité de gauche. Chirac a dit, et tout, Sarkozy et Balladur et tous ont dit, plus question de cohabitation, c'est le plus mauvais système possible, on n'en veut plus. Qu'est-ce qui va se passer? Chirac, il ne veut pas cohabiter. Il va prendre un Premier ministre dans son camp, dans le camp minoritaire. Ben, le Premier ministre sera immédiatement mis en minorité par le Parlement. Donc Chirac sera dans la situation soit de prendre un Premier ministre socialiste, mais les socialistes diront « nous, on veut pas. La cohabitation, on n'en veut pas. » Soit de dissoudre l'Assemblée. Donc il va dissoudre. Et à ce moment-là, la gauche sera réélue, ça c'est absolument certain. Et Chirac va se retrouver président de la République avec une majorité de gauche qui ne veut pas lui donner de Premier ministre. Il est obligé de démissionner, il ne peut pas gouverner. Puisque s'il prend un autre Premier ministre, systématiquement ce Premier ministre va être mis en minorité. Donc il est obligé de démissionner. Et à ce moment-là, quand il démissionne, Jospin arrive. Coco, c'est moi que voilà, les enfants. Décidément, cédant à l'affectueuse pression de mes amis, je suis obligé de revenir.
Il nous a déjà fait le coup une fois.
Exactement. Donc voilà le plan. Voilà pourquoi Jospin dit cette phrase. Le choix est difficile, je ne veux pas peser dans un sens ou dans un autre, réfléchissez-y bien, essayez d'être dans la réalité, pas dans les mythes. Jospin espère que Le Pen va faire un score maximum. Et en ça, on a la contre-preuve, si j'ose dire, je l'ai évoqué tout à l'heure, il a une position qui est absolument trotskiste, qui a toujours été la démarche intellectuelle et politique des trotskistes. Toujours. C'est deux choses. Premièrement l'entrisme, et deuxièmement la politique du pire. Pendant l'occupation, les trotskistes étaient collabos. Le journal La Vérité publiait des articles à longueur de journée, c'est dans le Libre Journal, j'en publie des extraits, pour expliquer qu'il ne fallait pas choisir entre le nazisme et le capitalisme américain, que c'était exactement la même chose. Et les gars qui ont pris... Il y a eu des trotskistes qui sont entrés dans la résistance. Ils ont été dénoncés et assassinés par les trotskistes collabos. Les trotskistes ont toujours joué cette carte de la trahison, des intérêts de la gauche. Et là, ils feront la même chose. Alors, maintenant, il y a un autre problème qui se pose, c'est celui de Chirac. Parce que les gens vous disent, on va voter pour Chirac, on ne peut pas faire autrement, etc. Mais qu'est-ce que c'est Chirac, au fond? Si on est un petit... On peut citer des phrases de lui. Le Chirac enraciné. Il dit, par exemple, « J'ai été pendant très longtemps député de la région du plateau des Mille Vaches. D'une certaine façon, ce fut pour moi... » Alors, son élection à la présidence de la République, écoutez cette phrase extraordinaire, « Ce fut pour moi la Corrèze élargie aux dimensions de la France. » Il gère la France comme on gère un canton de la Corrèze. Hein. « Nous avons l'habitude d'exporter ce que nous appelons des veaux d'Italie. » Ça, c'est pour expliquer pourquoi il est pour l'Europe. Le nom est bien choisi, c'est-à-dire des jeunes broutards qu'on exporte vers l'Italie depuis toujours. Les ateliers italiens finissaient ces taurillons. Chez moi, en Corrèze, sur le plateau des Mille Vaches, les gens parlent en ancien franc. Ils sont plus nombreux que les gens qui parlent en nouveau franc. sur le plateau des Mille Vaches, nous avons l'habitude d'exporter, etc. Bon, et c'est un élu cantonal, voilà, de qualité moyenne. Sur le plan personnel, qu'est-ce qu'il dit ? Peut-être qu'en le pratiquant plus jeune, j'aurais pu faire du sumo. J'avais la taille nécessaire et le poids, ça s'acquiert. J'aime le bon vin, j'abuse pas. Mais la bière a un avantage, c'est qu'elle désaltère. Vous comprenez, désaltérer, ça coupe la soif. Ça a sens, hein ? Et il n'y a pas trop d'alcool dedans. Beaucoup moins que dans le vin. Alors on peut boire davantage. Il y a beaucoup de choses que j'aime à part le football et la bière. Ah bon ? C'est intéressant à savoir. Moi, j'aime pas les voitures blindées parce qu'on peut pas ouvrir les fenêtres complètement. J'aime bien avoir le bras dans l'ouverture de la fenêtre. Je rappelle que c'est le président... Ça, c'est pas vieux, hein. En 97, il disait ça, à la télévision soviétique. Russe, pardon. Alors maintenant, l'homme moderne. Pour moi, la femme idéale, c'est la femme corrézienne. Celle de l'ancien temps. Dure à la peine, qui sert les hommes à table, s'assied jamais avec eux et qui parle pas. Ça, c'est en 78. Le travailleur français et sa femme... qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM, entassé, une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler, si vous ajoutez le bruit et l'auteur, et ben le travailleur français sur le palier devient fou. Mais c'est pas être raciste de dire ça. Non, c'est pas être raciste, bien sûr. Si Le Pen dit ça, il va directement en prison. Mais quand Chirac le dit le 19 juin 1991, c'est une aimable plaisanterie. Il était bourré en plus, ce jour-là. Il avait peut-être, c'était trop désaltéré. Chirac voyageur. Le Canada est un vaste pays, terre des peuples autochtones. Pas comme les autres, hein. C'est le Canada qui est la terre des peuples autochtones. Les autres pays, rien à voir. Terre des peuples autochtones et des Inuits, où l'anglais et le français se côtoient. Un pays qui perfectionne l'art de vivre ensemble dans un esprit de paix et de tolérance. Vous savez, c'était De Gaulle qui avait dit fécamp port de mer et qui entend le rester. Alors ça, on sait, il est complètement gaulliste, Chirac. En Bolivie. Chers amis de Bolivie, et en particulier de tous les jeunes de ce beau et grand pays, je vous remercie de tout cœur de votre accueil, qui restera dans ma mémoire comme un grand moment. Et merci à vous, monsieur le Président, qui venez de me remettre le Condor des Oro. Le Condor. Avec toi, camarade. Et si les dieux sont avec nous, peut-être aurons-nous le privilège de voir la Bolivie et la France en finale de la Coupe du Monde à Paris. Donc il va en Bolivie en voyage officiel. Et que sa seule idée, c'est que la Bolivie joue la Coupe de France. Enfin, joue la Coupe du Monde, voilà. Mais je vous rappelle qu'il l'a dit précédemment, il y a beaucoup de choses que j'aime à part le football et la bière. Et alors, en Russie. Je crois qu'en Russie, il y a des gens sérieux et des gens qui ne sont pas sérieux. C'est de plus en plus la même chose en France. Ça, c'est 24 septembre 1997. J'invente rien, hein. Bernadette et moi-même nous réjouissons à la perspective de découvrir le Nunavut et de rencontrer ses habitants. Notre courte visite nous permettra d'entrevoir la beauté de ses paysages, notamment le site grandiose de Pangliktunk. Ça, c'est le 6 septembre 99. Je sais pas où c'est tout ça, le Nunavut, Pangliktunk, enfin. Chirac en philosophe politique. Un chef s'est fait pour cheffer. Juin 1992. En politique comme dans la vie, il en va souvent ainsi. Quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Aucun régime ne peut durer sans adhésion du peuple. Et il arrive qu'inévitablement un moment où les hommes et les femmes n'acceptent plus les mensonges et secouent le joug. Je suis venu dire aux Français qu'il est temps de renoncer au renoncement. Vous avez une école de pensée en France depuis longtemps et qui s'est toujours attaqué aux structures même de la société, qui veut casser l'État. Eh bien moi, je ne laisserai pas casser l'État. Beau, ça. Ce n'est pas en humiliant, ce n'est pas par arrogance, c'est par la capacité d'expliquer et de convaincre. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette capacité, moi, je l'ai. Je l'ai depuis longtemps, et je n'ai pas observé que ça réussissait si mal. Ça, il a dit ça à Ho Chi Minhville, le 13 septembre 97, donc novembre 97. Je suis venu dire, redire, que la politique n'est pas seulement l'art du possible, et qu'il est des moments où elle devient l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et vous allez voter pour ça? Vous êtes toqués, les mecs. Lucide. Prenons un paquet de biscuits qui coûte 4 francs 80. Je dis n'importe quoi, peu importe. Jospin, il croyait qu'un pain, ça coûtait 7 euros. Lui, il croit qu'un paquet de biscuits, ça coûte 4 francs 80. Si vous trouvez des paquets de biscuits à 4 francs 80, vous me faites signe, parce que justement, j'aime bien les biscuits. Et puis alors, il dit encore. Puis un jour, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les hommes ont dit « Mais c'est idiot. Il faut mieux engager un processus de paix durable et organisé. » la dissolution. Je ne dis pas du tout que je n'aurais pas dû la faire, même si naturellement j'aurais préféré un résultat différent. Je me suis fixé comme objectif à la fois de moderniser et d'adapter la France qui en a besoin, et aussi de renforcer sa cohésion sociale. Nous avons tous constaté qu'à la fracture sociale s'ajoute aujourd'hui une distance croissante entre le peuple et ceux qui ont vocation à le représenter. Autrement dit, à la fracture s'ajoute la fracture. Hein. Voilà. Et puis alors, à propos de l'écologie, c'est certainement qu'il faut mettre de l'écologie dans les partis, ça fait pas l'ombre d'un doute. Mettre de l'écologie dans les partis. Longtemps affaire de spécialistes, la protection de l'environnement est devenue un impératif éminemment politique qui concerne la cité planétaire tout entière. La cité planétaire. Il s'agit de faire prévaloir une certaine conception de l'homme par rapport à la nature. Je vais m'arrêter là parce que...
Vous pourrez lire. Pour vous faire reprendre votre souffle, oui. On va relire quelques messages d'auditeurs si vous voulez.
Oui, c'est ça, j'allais vous le demander.
Alors, un auditeur, je nourris des craintes au sujet de Jean-Marie Le Pen. Je ne suis pas voyant ou médium, je ne crois pas à ces choses-là, mais j'ai l'intuition que certains vont essayer d'assassiner Jean-Marie Le Pen lors de la manifestation du 1er mai. Peut-être que ça m'est venu à l'esprit à cause de ce qui s'est passé à Nanterre.
J'ai entendu ça tous les ans depuis 20 ans.
Donc. Et une auditrice, pour qu'on précise sa pensée, ne pensez-vous pas que Jean-Marie Le Pen devrait annuler le défilé du 1er mai, sachant que des provocateurs seront forcément infiltrés? Jean-Marie Le Pen est attaqué par les journalistes sur le gros problème qu'il a créé en parlant de préférence nationale. Cela semble être un scandale de vouloir la préférence nationale. Mais il devrait leur dire que cette préférence nationale existe dans des États démocratiques comme les États-Unis. Le taux d'étrangers dans leurs entreprises a été ramené à 10% depuis le 11 septembre 2001. Un auditeur, j'estime que la France est en danger et que la terreur a déjà commencé.
Mais non, enfin la terreur, vous avez 10 000 gosses qui se baladent dans la rue en criant, parler d'une terreur, on est quand même loin du compte. Hein.
Autre version, extrait très intéressant d'une dépêche AFP d'aujourd'hui sur Garges-lès-Gonesse. Au détour d'une barre, un Le Pen fils de pute orne un mur. Pourtant, peu de tags ont fleuri dans la cité. Il y a un effet élection évident. J'ai senti une nette différence chez les jeunes qui sont calmés. Le résultat de dimanche leur fait peur, estime un policier qui souligne un calme miraculeux.
Mais là, il faut lire le bouquin de Maud Marin. Il y a une histoire comme ça où elle raconte comment une terreur, un beurre, vraiment une terreur qui terrorisait la juge d'instruction qui l'interrogeait. Quand il est arrivé dans le cabinet du juge d'instruction et qu'il a appris, la dernière fois, aux dernières élections, que Le Pen avait fait 15%, il était effondré. Il s'était liquéfié littéralement. Parce qu'il avait peur. Hein. Voilà. C'est tout. Il n'a même pas besoin de se servir du bâton, il suffit de le montrer. C'est pour ça que c'est complètement ridicule de croire que ces gens-là vont mettre le pays à feu et à sang.
Serge Le Bequetch est de mauvaise foi. C'est pour les lycéens qui préparent l'option guérilla urbaine pour le prochain bac que l'éducation nationale organise des manifestations spontanées.
Ça, je n'avais pas pensé à ça.
Savez-vous que le maire de Paris, Delanoë, est aussi entré en résistance? Sur la porte vitrée de son immeuble, au 17 rue de Sèvres, il a apposé un non à Le Pen.
Mais il distribue des sacs à crottes, le maire de Paris. Vous avez vu ça? Il a fait fabriquer des petits sacs, des tout petits sacs qui ressemblent à des bourses. C'est-à-dire, je le connais. Et c'est pour mettre de la crotte de chien. Alors, on est censé ramasser la crotte et la mettre dans un petit sac. Je ne sais pas ce qu'on va en faire après. Je préfère pas me... Mais voilà, c'est à ça qu'il s'occupe de la Noé. C'est quand même des curieuses obsessions. Hein.
Chirac, hier soir à la TV, pour son meeting de Rennes, en entrant sur la scène, a fait le signe de détresse maçonnique, les deux mains réunies au-dessus de la tête.
Chevènement le faisait à la fin de tous ses meetings, systématiquement.
J'ai voté Maigret, je voterai Le Pen, ajoute cet auditeur. On entend beaucoup de journalistes...
C'est la moindre des choses.
On entend beaucoup de journalistes du système... comme hier sur France 2, reprocher à Jean-Marie Le Pen ses déclarations relatives à l'affaire du détail. On reproche moins à Jacques Chirac ses déclarations sur le bruit et les odeurs. Serge de Bequetch peut-il préciser, concernant l'affiche de la poste de Clignancourt, que l'auditeur a obtenu de faire retirer la une de Libération affichée mardi en téléphonant à la DRH du 18e arrondissement de Paris, en menaçant de faire fermer ses trois comptes à la poste. Merci, nous dit cette auditrice, de nous donner du tonus. Hier, on aurait dû avoir sur M6 une émission 5 ans avec lui. Les candidats prévus, bien sûr, étaient Chirac et Jospin. Mais là, hier, à la place, on a eu un film. Et quel film.
C'est très rigolo, ça. En plus, c'est des imbéciles, parce que...
Je fais une... Oui, c'était annoncé.
Ils le savaient absolument. Tout... Attendez, je vais vous raconter, je vais vous donner une information exclusive. Toute la classe politique et toute la classe médiatique savaient absolument que Le Pen serait deuxième. Ils le savaient depuis le milieu de la semaine. Moi, je l'ai su vendredi à midi. Et vendredi à midi, j'ai envoyé un mail à tous mes amis en disant, voilà, prenez date, voilà ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et le directeur d'un institut de sondage qui travaille en exclusivité avec un patron de journal que je connais, qui lui a expliqué la chose suivante. Il lui a dit, Le Pen fait, ça se passait mardi. Il lui a dit, Le Pen fait 6% en données brutes. Nous savons, nous, que pour connaître le score de Le Pen, il faut appliquer un coefficient multiplicateur de 3. Donc nous savons qu'il va faire 18. Mais tous les patrons d'instituts de sondage ne veulent pas publier ce résultat parce que ça le fait passer devant Jospin et qu'on nous accuserait de prendre parti en faveur de Le Pen. Et ça, personne ne le veut parce que les sondages politiques, pour nous, c'est de l'argent perdu, mais qui nous permet... qui nous sert de vitrine pour les sondages sérieux, sondages industriels, commerciaux, etc. Donc personne ne veut prendre le risque d'avoir une mauvaise image. Par conséquent, écoutez bien ça, nous nous sommes tous mis d'accord pour appliquer un coefficient multiplicateur de 2. Et effectivement, ils ont tous annoncé Le Pen autour de 12%. Et il était particulièrement mécontent, ce bonhomme, parce qu'il y a un type de la bande qui a bouffé la consigne. Il n'est pas idiot, lui. Il a dit, ils vont tous annoncer 12, et moi je vais annoncer 14. Et comme ça, je serai plus proche de la vérité, et pour ma pub, c'est très bon. Parce que je pourrais dire après, vous voyez, quand tout le monde annonçait 12, moi j'ai annoncé 14, et Le Pen a fait 17. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a un journal qui a publié un sondage où Le Pen était donné à 14. Et les autres sont foudrages. Ils lui en veulent énormément parce qu'ils considèrent qu'il a trompé leur confiance. Eux, ils ont trompé la confiance de tous les Français, ça n'a aucune importance. Mais à l'intérieur de la mafia, ça ne se fait pas, ce genre de choses. Voilà exactement ce qui s'est passé. Donc tout le monde était au courant que Le Pen était deuxième. Lui-même le savait. Mais les autres le savaient alors d'une façon certaine, et notamment les gens de la télévision. Ils étaient prévenus, ils ont besoin de le savoir pour monter leurs émissions, pour monter leurs programmes.
Le président de Conférence des évêques de France est Mgr Ricard, évêque de Bordeaux, et non pas Picard. Et c'est signé d'un auditeur qui dit « Je suis chiracien, mais je suis bien content que Le Pen soit qualifié, sinon Chirac, face à Jospin, aurait perdu. »
« Je suis chiracien, mais je me soigne. »
Non, il continue à voter. L'évêque Gaillot était sur la liste de soutien de Besancenot.
Ah.
Pourriez-vous nous dire qui encadre les jeunes qui manifestent actuellement dans la rue,
ben
qui leur donne les lieux et les heures de rendez-vous?
C'est les gens de Ralph Front, c'est le gang terroriste de Ralph Front.
Et comment circulent toutes les informations?
par portable et par comment ça s'appelle
les messages SMS qui sont sur les portables, ils sont préparés,
voilà,
à l'avance.
Ah ben voilà.
J'ai eu des informations très précises hier par quelqu'un qui est socialiste depuis 30 ans et qui va voter Le Pen.
Madame Boutin, qui soi-disant...
Bah lui, il s'est soigné, puis il a guéri. Donc.
Non, je pense que c'est dans l'analyse que vous avez faite.
Ah, voilà.
Madame Boutin, qui soi-disant défend la vie, appelle à voter pour l'homme qui fit passer la loi Veil sur l'avortement quand il était ministre de Giscard.
J'ai peine à le croire.
Ce soir, sur France 3, à 23h25, Culture et dépendance, présenté par France-Olivier Gisbert, présente « Où va la France ?» avec BHL et Colombani du Monde. Et Madame Virginie Despentes, du film célèbre « Baise-moi ».
C'est familier. Mais personne ne regarde ces émissions. À faire 3 à 23h, France-Olivier Gisbert, tout le monde est endormi au bout de 2 minutes. Donc ça n'a aucune importance.
Une auditrice qui a mauvais esprit, qui dit « Je pense que pour le deuxième tour, il y aura beaucoup d'urnes toutes prête avec des bulletins Chirac. Que c'est vilain de dire.
Je ne crois pas trop à ça. Moi, je crois pas. Parce que les militants sont là, ils surveillent quand même. Donc. Alors, commandant Bunel, je suis désolé. Vous avez vu comment s'est passée la chose. Je vous ai fait venir. Et puis, on ne va pas pouvoir parler beaucoup. Mais je voudrais quand même signaler d'abord que vous êtes sorti.
Voilà.
Vous êtes revenu des Espagnes, comme on dit.
Je suis revenu des Espagnes.
Et que vous préparez un bouquin.
Oui, alors je prépare plusieurs bouquins. Il y en a un qui s'appelle, qui est en cours de préparation, Le Sycomore de Jéricho. Et c'est en fait un livre de relations internationales, mais comme je fais toujours, en partant de mes souvenirs. Parce que j'en ai assez de voir ce qui se passe dans le monde, en particulier dans une zone du monde qui m'est particulièrement chère, c'est-à-dire le Proche-Orient, où on dit tout et n'importe quoi. Parce
que... De préférence n'importe quoi.
Oui, oui, de préférence n'importe quoi. Le manichéisme ne tient pas debout. Et je crois qu'on oublie beaucoup, quand on voit les exactions commises par Sharon, qu'il n'y a pas que des musulmans qui sont attaqués, et il n'y aurait que des musulmans attaqués, ce serait scandaleux, mais il y a quand même un siège extrêmement grave qui est celui de Bethléem. Voilà. C'est pas le seul. Mais il y a tellement de choses à dire que là il faut un bouquin. Donc je suis en train de travailler dessus comme je fais avec tout ce que j'ai récupéré comme documents personnels que j'ai pris moi-même. Je veux dire, les photos elles sont pas truquées, ça c'est moi qui les ai faites. Toutes les notes, tous les constats que j'ai faits. Et puis aussi je me suis inspiré parce que pendant 4 mois j'ai eu l'occasion de lire. Je me suis inspiré d'un certain nombre d'ouvrages de référence qui ont une dizaine d'années et puis qu'il est bon de remettre au goût du jour. Sinon je suis sur des travaux d'expertise en ce moment et je prépare, mais ça c'est pour dans plus longtemps, un livre sur il faut pas dire l'affaire Bunel, un livre sur les événements qui m'ont conduit en prison. Et là je souhaite quand même faire une petite précision. Je vous ai entendu critiquer la justice qui par certains côtés peut être critiquable. Je pense que c'est par certains hommes qu'elle peut être critiquable, mais je voudrais faire une mise au point dans mon affaire. J'ai été condamné à minima, c'est-à-dire que sur les 15 ans que je risquais si j'avais été vraiment un traître, le jury, pourtant un jury de juges d'instruction, donc des fonctionnaires d'État, a estimé qu'il ne fallait pas aller si loin. Même la procureure qui est partie avec un réquisitoire en commençant par la peine de mort a demandé 5 ans et en laissant le tribunal la sortir du sursis. Et ce qui est extrêmement important, c'est que pratiquement sans délibérer, pratiquement instantanément, en ce qui concerne mes droits civiques et civils, la Cour a décidé de me les laisser. Ce qui prouve que je suis effectivement condamné pour trahison, mais pas comme un traître.
C'est tout à fait extraordinaire, ça, effectivement, l'histoire des droits civiques.
Alors, je voudrais préciser une chose. J'ai effectivement commis un acte illégal. J'en ai commis plein durant ma vie et je n'en rougis pas.
C'est mal.
Il était légitime, mais ça ne suffit pas pour une Cour. Dans le système français, l'acte étant commis, les circonstances ne servent qu'à moduler la peine. Si j'avais été un mauvais garçon, j'aurais bien sûr chiqué, comme on dit dans le langage des voyous, et jamais on n'aurait pu prouver que j'ai effectivement donné des informations classifiées. Donc, sur ces circonstances, il y a un peu plus de précision dans la réédition de mon livre « Crimes de guerre à l'OTAN » où j'ai rajouté un chapitre parce que il s'est passé des tas de choses depuis ma libération conditionnelle, enfin de ma mise en liberté provisoire. Donc ce livre-là, c'est un chapitre de plus et des révélations sur ce qui s'est passé au Kosovo après la guerre d'agression de l'OTAN contre le Kosovo. Et en particulier, il y a bien sûr quelques détails sur mon affaire, mais il y en a sur l'affaire Méchain.
Méchain, c'est le gendarme.
Le colonel de gendarmerie qui a été mis en détention provisoire pendant quelques jours pour un dérapage de plus de la sécurité militaire. Donc là, dans ce livre, il y a un certain nombre de choses. J'ai sorti un livre qui est presque épuisé, qui s'appelle « Menaces d'islamistes ». Je l'ai sorti juste après le... j'ai commencé à l'écrire le 17 septembre à la demande de l'éditeur. J'y démontre dedans un certain nombre de choses. En particulier sur l'affaire du 11 septembre. Je démontre déjà qu'on nous ment beaucoup sur cette affaire. Mais surtout, j'y explique de façon simple un certain nombre de vérités sur l'islam, sur l'islamisme, parce que c'est pas la même chose, sur l'Afghanistan, et j'y annonce que les Américains vont s'y planter, ce qu'ils ont fait, ça y est, ils sont embourbés dans l'Afghanistan. Et j'explique pourquoi. Alors, ces livres sont disponibles. On les trouve en librairie, mais si vous les voulez dédicacer, il suffit d'écrire à l'éditeur, c'est-à-dire édition Carnot, 10 quai Jean Mermoz, 78 400, Chatou. Vous envoyez la commande avec un chèque, chaque livre vaut 15 euros, et vous l'aurez franco de port, dédicacé. Voilà, c'est ce que...
Alors, l'adresse des éditions Carnot, vous voulez la rappeler?
Les éditions Carnot, c'est 10 quai Jean Mermoz, 10 quai Jean Mermoz, 78 400, Chatou. Vous avez ces coordonnées sur mes sites internet, et donc il y a pierre.bunel, barre oblique, alors on le reprend au départ, c'est www,
oui, ça,
voilà,
oui.
Bon. C'est site.voila.fr.
Ah d'accord. Et après c'est la déclinaison, pierre.bunel, voilà. Barre oblique, d'accord. Ok, alors ce que je vous propose, commandant Bunel, c'est de revenir, parce que je vous avais invité pour nous raconter les 4 mois que vous avez passé à la santé, et c'est, on en a parlé tous les deux, et c'est tout à fait passionnant, parce que vous avez rencontré des personnages dont tout le monde parle, Papon, Sirven, des gens comme ça, et vous avez donc un regard sur la situation carcérale, sur la situation de ces gens qui sont en prison, alors que ils n'étaient pas préparés psychologiquement à s'y trouver, contrairement aux truands et aux voleurs, etc., qui eux s'attendent bien à ce que ça leur arrive. Et j'aimerais bien qu'on en parle un jour, parce que la question de la prison me paraît un débat essentiel dans notre société aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui y sont, pour 1000 raisons, et je voudrais essayer de comprendre ce qui s'y passe et comment ça fonctionne.
Ça, ce sera bien volontiers, d'autant plus que ça montre l'extrême difficulté du travail de juge, parce que je fais partie de ces rares condamnés qui ne crachent ni sur les juges ni sur les procureurs.
C'est je reconnais rare. Là la tradition de l'officier français.
Mais
nom et numéro matricule pour ça.
Mais en ce qui concerne leur travail, c'est un travail de fonctionnaire. Or, c'est par la tête que pourrit le poisson. Et donc l'État pourrit par ça.
Je vous propose qu'on en parle prochainement.
Bien sûr.
Et puis, je vous recontacte et on fait une émission importante très prochainement.
Absolument.
Merci beaucoup.
Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, dirigé en seconde partie par Daniel Amiche, avec l'assistance de Jacqueline Levenbruck. Émission diffusée en direct, mercredi 24 avril 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 25 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
J'en prends la parole pour quelques minutes, car Daniel Amiche, selon une tradition maintenant bien installée, accepte de me rétrocéder un petit moment. Et alors, je voudrais pas qu'on croie, comme la première partie pourrait laisser croire que j'ai une animosité personnelle contre Jacques Chirac, je veux pas qu'on croie ça, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et je voudrais vous montrer à quel point, en fait, tout le monde peut voter pour Chirac. C'est sérieux ce que je dis, il ne faut pas rigoler, Daniel.
Non, mais je sais déjà ce que tu vas dire.
Tout le monde peut voter pour lui, je vais vous en donner la preuve. Donc vous voyez, je ne suis pas contre du tout, c'est un homme, comment dirais-je ?
Écuménique.
Écuménique, ouvert, pluriel, voilà, c'est un homme pluriel. Par exemple, si vous êtes libéral, Chirac a dit, face à l'échec du socialisme, le libéralisme s'impose comme une nécessité. Bon. Mais si vous n'êtes pas libéral, ça c'était en 84, en 79, il avait dit « Le libéralisme n'est pas une réponse au problème de l'économie moderne. Si vous êtes social-démocrate, hein, Chirac dit à la Croix en 1976, c'est au RPR que vous trouverez la social-démocratie. Mais si vous êtes contre la social-démocratie, Chirac dit à Tokyo en octobre 84, la social-démocratie est la voie la plus pernicieuse. Si vous êtes pour le droit de vote des immigrés, Chirac en octobre 79 à Bruxelles dit, je suis favorable au droit de vote des immigrés. Si vous êtes contre le droit de vote des immigrés, Chirac dit au Monde, 5 ans plus tard, il n'est pas possible d'accorder le droit de vote aux immigrés. Si vous aimez bien M. Barr, ça peut arriver, hein, il y a des auditeurs partout en France, il peut y avoir un type au fin fond des monts du Lyonnais qui aime M. Barr. Bon, alors, il a dit, en 77, Chirac, il a dit, si j'étais Premier ministre, je ferais la même politique que M. Barr, il n'y a pas d'autre possible. Et si vous êtes contre M. Barr, en 81, Chirac a dit, la politique que je propose est très exactement à l'opposé de celle conduite par M. Barr. Donc vous voyez, finalement, c'est, je peux vous en citer 10 autres comme ça. Hein. Il faut je suis favorable à un mandat de 7 ans non renouvelable. Ça, c'était en 81. Et en 83, il faut envisager une réduction du mandat à 5 ans. Hein. Je suis favorable à la peine de mort, 4 mars 75. Je suis hostile à la peine de mort, 26 mars 1981. Si vous voulez. Et vous ne voudriez pas voter pour lui. Mais c'est comme la Samaritaine. Trouve tout. Vous êtes pour, il est là. Vous êtes contre, il est là. Vous êtes contre l'avortement, il y a Mme Boutin. Vous êtes pour l'avortement, il y a Mme Veil. C'est fabuleux quand même, non? Et on voudrait qu'il ne soit pas président de la République. Non, franchement, il mérite d'être président de la République. Voilà un homme d'unité. Hein? Donc, si vous m'en croyez, si vous êtes vraiment aussi abruti qu'il le croit, après 50 ans de matraquage télévisuel, radiophonique, sauf Radio Courtoisie bien entendu, médiatique, de terrorisme de la pensée, eh ben, vous n'avez pas le choix, vous votez, comment il s'appelle déjà?
Chirac.
Votez Chirac, au moins on rigolera. Voilà. Quelle est la date du monde où Jospin n'a pas donné de consigne pour voter Chirac?
C'est hier.
Le monde du 24 avril 2002, page 7. Vous voyez, je vous donne la page, on ne peut quand même pas être plus honnête, hein. Voilà. Alors, maintenant, on parle de tout à fait autre chose. Monsieur mon père, je vous demande pardon, parce que je sais que vous détestez la politique.
Absolument. Je suis dans un registre spirituel.
Vous êtes dans un registre...
C'est évident. J'essaie de monter très haut, mais je ne vole pas trop haut.
Vous comprenez que l'actualité, quand même, m'obligeait à être un petit peu... parler de ça.
Oui, donc... je me suis même demandé si j'allais venir, Serge, mais bon, pour parler du bon Dieu, on peut parler partout, n'est-ce pas?
Il est chez lui, partout.
Voilà, et surtout à Radio Courtoisie.
Voilà. Et en tout cas, donc, je précise que vous n'avez aucune opinion sur ce que j'ai dit avant.
Absolument.
Enfin, vous êtes ni pour ni contre, bien au contraire.
Absolument. D'ailleurs, je peux vous dire qu'on a appelé notre fête bretonne la fête de la victoire, mais c'était il y a 3 mois.
Oui.
3 mois ou 4 mois. Alors, vous savez, c'est bien sûr la victoire du scoutisme. C'est la victoire de Riomont parce qu'on a acheté ses ruines, qui sont d'ailleurs à l'image de la France qui est ruinée. Et ben, je ne sais pas, vous allez peut-être m'interroger, vous me posez des questions.
Mais en plus, la fête de la victoire, ça tombe très bien, parce que vous êtes tranquille, quel que soit le vainqueur, vous êtes dans le bon camp.
Ah, mais j'avais dit, il faudra voter avec ses pieds en venant au Gerveur.
Voilà.
C'est entre les deux tours, on peut voter avec ses pieds, en venant prier avec ses mains, en se mettant à genoux, en assistant à une très très belle messe, surtout le dimanche, qui sera célébrée par le père Alain Hochmiller, le prieur de la Sainte-Croix de Riomont, avec un service liturgique qui sera fait par nos garçons. Et je crois que ceux qui viendront pourront vraiment prier.
Alors,
on a besoin de prier en ce moment.
Moi, je ne suis pas catholique. J'ai pas du tout envie d'aller au Gerveur. Vous avez 5 minutes pour me convaincre que je ne peux pas faire autrement que d'y aller.
Serge, d'abord, on va chanter le chant de votre émission. Donc c'est déjà pas mal, c'est l'indicatif. Donc quand il y a l'indicatif, généralement on entend Serge après. Donc ce serait pas mal. Ouais. Et puis il y aura le drapeau de la Sainte-Russie qui va arriver. Et ça sera très très beau, ça sera poignant au début.
En point à coup, il y aura les Cosaques et le Saint-Sacrement.
Voilà, il y aura l'étendard de Jeanne d'Arc, on va chanter au début l'étendard de la délivrance. Et puis tous nos chants de tradition. Bien sûr, il faut les sélectionner parce que le carnet de chants est très épais. Mais vous savez que les garçons de Riomont chantent sans carnet. C'était le père Revé le demandait. Pas de lampe électrique à la veillée, pas de carnet. J'ai déjà vu les enfants de Riomont. J'avais à ce moment-là 22-23 ans, chanter pendant 2h15 sans carnet.
Tout par cœur.
Tout par cœur.
Comme les tenues en rite émulation.
C'est magnifique. Tout à l'heure, avant de venir, je recevais des Libanais et qui venaient pour conduire un garçon à Riomont. Et puis, il y a un homme qui était là, barbu. C'est curieux, en regardant simplement les yeux, on peut reconnaître quelqu'un. Mais si on prend toute la découpe du visage, on est trompé. Et alors, je l'ai regardé dans les yeux, et c'était un ancien. Habituellement, je sors le prénom, parce que j'en ai vu quand même peut-être 1500 ou 2000. Et je lui dis, comment tu t'appelles ? Jean-François Caboche, il me dit. Eh bien, je lui dis, écoute, ça fait 30 ans que je t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu deviens ? Et j'étais très ému de voir cet ancien de 30 ans qui venait pour la première fois au village. Mais tout ça pour dire que Riomont, c'est une grande fraternité, c'est une grande tradition, c'est une pensée aussi, la pensée du père Revet, qui est prise sur le scoutisme, notre scoutisme très cher. Et c'est vrai qu'il faut venir, parce que si vous ne venez pas, il y aura un grand vide. Alors on parlera de vous. Mais là, si vous venez pas, on pourra dire du mal de vous.
Dire du mal, voilà.
Et oui, donc il faut absolument venir pour se défendre.
Je vous connais.
Mais bon,
je te connais aussi.
Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous éclairer pour venir. Moi, je suis qu'un pauvre instrument. Et voilà. Donc il faut venir. Il faut venir au Gerveur pour assister à la veillée et puis le lendemain à la messe. Et puis alors pour le méchoui, c'est trop tard. On va tuer 8 moutons. Il y a 400 inscrits pour le méchoui.
C'est la fête pour tout le monde,
voilà. Pour les moutons. Non, mais bon, je dis pas qu'ils sont volontaires, mais
exagérant.
Et qui viendront en chantant, mais c'est quand même un beau symbole. Donc il faut venir au Gerveur, c'est vrai. Et actuellement, eh bien, comme pour nos feux de la Saint-Jean, je pensais que ça serait un mini feu de la Saint-Jean. On a déjà fait, on fait 2 cars, on a fait 4 camions, on fait des camionnettes, des voitures de toute la France. Il y a des voitures qui vont venir. Il y a des gens que je ne connais absolument pas. Grâce à Radio Courtoisie, on a eu 480 dons pour acheter le village breton. Avec émotion, je remercie tous ceux qui m'écoutent. Ils m'ont déjà écouté un petit peu peut-être avec le commandant Guillaume les derniers lundis. Et je remercie aussi encore le commandant Guillaume pour tout ce qu'il fait. Il sera là, lui, car on chantera « Ils ont traversé le Rhin ». On chantera « Les dragons de Noailles ». Pour lui, pour son indicatif. Bon, c'est encore une raison de venir. C'est pour pas laisser aux autres la popularité. Et il faut venir quand même. Bon, voilà. Et puis, on peut se reposer là-bas. Il y a tout ce qu'il faut. On peut vous donner une couchette, quelque chose. On peut vous louer l'hôtel.
Un hôtel entier.
Mais plusieurs jours, 10 jours. On vous prend l'hôtel pour 15 jours s'il faut, parce que vous devez vous reposer. On a besoin de vous pour le combat. Voilà. Donc, le Gerveur, pour s'y rendre, il faut aller à Lorient. De Lorient, direction Hennebon. Et Hennebon, Ploué, c'est très facile. Vous pouvez encore envoyer des fax au village pour annoncer votre arrivée. Mais il est un peu tard, mais vous pouvez venir parce que les derniers, on les mettra en premier à la veillée.
Un peu tard, du
03 21 43 44 33. Je répète le fax. 03 21 43 44 33. L'adresse, village d'enfants de Riomont. Boîte postale 28 62 801. Liévin Cedex.
Alors ça, c'est là qu'il faut écrire, mais il faut bien préciser que la fête n'a pas lieu à Riomont.
Oui, il y a des gens qui pensent, ils savent pas où se trouve Riomont. Certains croient que c'est en Bretagne. Mais non, pas du tout, c'est pas en Bretagne. Le village breton, c'est un village qu'on a acheté pour faire des camps pour le scoutisme.
Non, attendez, j'ai peur que vous n'égariez l'auditeur. le village des enfants, il est à Riomont. Voilà, ça, c'est là que vous êtes.
Pas-de-Calais.
Riomont, Pas-de-Calais. Vous êtes là toute l'année.
Toute l'année.
Mais vous avez acheté en Bretagne un village abandonné que vous inaugurez le week-end prochain et pour l'inauguration duquel vous organisez une grande fête. Donc, chers auditeurs, si vous voulez y aller, n'allez pas à Riomont. Aller plutôt au Gerveur par l'Orient. D'abord, c'est beaucoup plus... Enfin, je peux le dire quand même, c'est plus sympathique comme décor. C'est plus...
Oh non,
ah non,
le village de Riomont en pierre, c'est quand même quelque chose.
Ah non, le village de Riomont, il est
super. Oui, il faut passer entre deux pour y arriver. Vous devinez des pyramides d'Égypte, vous pouvez avoir un petit peu de romantisme, un peu de poésie aussi en arrivant là-bas.
Oui, on peut, je crois, aussi à la Cano-Océan avec les dunes.
Absolument.
Non, enfin, le village, il est superbe. Et alors, le village breton, ça doit être une pure merveille. Moi, j'ai très hâte de...
Vous verrez, il est ruiné. C'est une pure merveille, il est ruiné.
Comme moi.
Ruine éloquente, pas du tout, vous êtes en pleine forme.
Bon, donc vous avez donné les coordonnées, il faut vraiment y aller parce que vous allez voir ce que c'est. En plus, je rêve de voir l'ambiance de Riomont en Bretagne. Ça doit être collé parfaitement.
Oui, d'ailleurs, on va prendre des chants bretons, et le chœur montjoie Saint-Denis sera présent, et d'autres chœurs, il y aura de la bombarde, la veillée
sera dommage, il y avait plein de gens qui étaient sur le point de se décider à venir, mais là.
Pourquoi vous êtes contre la bombarde?
Ah non, pas la bombarde. Du moment qu'il joue assez fort pour passer au-dessus de la voix du cœur mangeois, tout va bien. Non, je l'ai taquiné.
Le cœur mangeois, ça va être noyé. Ils vont être quoi? Ils vont être 15. Bon, il va y avoir un millier ou deux milliers de personnes, peut-être plus. Donc, ils vont être complètement noyés, les pauvres.
Jean-Baptiste, ils vont te noyer.
Mais ils ont du caractère et je leur fais confiance. Ouais. On les entendra.
Non, ils sont magnifiques. C'est vrai que c'est bien ce qu'ils font.
En plus, Jean-Baptiste, l'éclaireur.
Vous avez écouté leur disque sur le rosaire?
Non, parce que je suis pas très pratiquant. Malheureusement,
ah bon
non.
Enfin, je vous explique ça, c'est quand même...
Oui, le rosaire, c'est très très bien. Ouais. C'est ce qui nous relie au ciel. Ce sont tous les grains de chapelet qui nous relient au ciel.
Ben, vous avez vu que le Monseigneur, comment s'appelle-t-il, le Medina, Monseigneur Medina, je sais pas, enfin bref, il a dit qu'il fallait plus parler aux anges, hein. C'est terminé.
Ah, j'ai jamais entendu dire ça, moi.
Ah ben, moi, je vous le garantis.
C'est la nouvelle religion.
Ah ouais. Il a dit... Il y a un papier dans le Libre Journal.
Non, il a dit qu'il ne fallait pas invoquer des anges qui ne sont pas les anges.
Il ne faut pas invoquer des anges. Bah, ça veut dire qu'il faut
Mais comme il y a des anges qui.
Il appelle ça les déviations de la piété populaire, telles que la lecture simpliste et presque enfantine des événements de tous les jours, en attribuant au malin la responsabilité des problèmes, y compris les petits ennuis, et en revanche d'attribuer à l'ange gardien tous les succès et les bons résultats. Ça, c'est mal.
C'est une attaque contre la Bretagne. Parce que, alors, si les Bretons ont fait confiance justement à leurs anges, et ils se méfiaient beaucoup.
Je veux dire, un évêque qui s'appelle Medina, il faut se méfier quand même.
Bon, il y a une chanson, Medina Celi, il est arrêté.
Bon, assez dit de bêtises.
Voilà. De toute façon, je vous invite, à la fête de la victoire avec la Sainte Croix de Riomont, avec toute la communauté. Nous serons tous présents, les quatre prêtres et les quatre frères. Et puis nos garçons qui seront ici, et aussi avec les scouts de Foncombo. Merci en tout cas.
Merci mon père.
Une fois de plus, de m'avoir donné la parole sur le plan spirituel. Merci.
Bonne route. Je sais que ça se passera bien parce que les anges gardiens, bien qu'on n'ait pas le droit de les invoquer.
On sera en la fête de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort dimanche.
Merci, à bientôt. Chers auditeurs, je vous salue, je vous remercie de votre patience. Je ne serai pas là avant un moment parce que je vais partir me reposer.
Village de Riomont.
Après toutes ces mésaventures.
Au village breton.
Et je laisse donc la parole et le micro pour quelques semaines à mon excellent camarade Daniel Amiche.
Eh oui, toujours. Mais d'abord, Victoria va dire des petites choses, je pense.
Oui, mais moi, je vais prendre congé.
Ah, déjà ?
Une petite annonce.
Bon, alors, allez-y, faites vos annonces.
Alors, Yves Daoudal dédicacera ses ouvrages « La face cachée de Le Pen », édition Godefroy de Bouillon, 16 €, « Le dossier Boudarel », édition Rémi Perrin, 17,50 €, à la librairie Âmes et Racines à Versailles, 11 Place Saint-Louis, le vendredi 26 avril à partir de 15 h, et à la librairie Duquesne, le samedi 27 avril, à partir de 15 h.
Je signale que la face cachée de Le Pen, c'est un remarquable bouquin, c'est très très intéressant, il y a beaucoup de citations de Jean-Marie Le Pen, et vous verrez, là, vous pourrez voir la différence entre les citations de Jean-Marie Le Pen et les citations de Chirac, ça boxe pas tout à fait dans la même catégorie.
Et puis, samedi 4 mai, en principe à 17 h, dans toutes les cathédrales de France, c'est le rosaire pour la vie. Alors, pour les amis d'Île-de-France, un rendez-vous supplémentaire le 4 mai avec le docteur Dor. À 14 h, devant la maternité avortoire de Port-Royal-Baudeloc, rassemblement au coin de la rue Saint-Jacques et du boulevard de Port-Royal, métro Port-Royal ou Saint-Jacques, à la fin de la prière devant l'avortoir, le docteur Dor demandera à ses amis de rejoindre le rosaire pour la vie de leur diocèse. Pour mon compte, nous dit le docteur Villette, j'irai à celui de Notre-Dame de Paris à 17 h. Un pot de l'amitié se prendra à la brasserie des Tours de Notre-Dame à l'issue du rosaire, avec possibilité de répondre aux journalistes vers 18 h 15. Vous pouvez en inviter. Voilà, j'ai fini pour les annonces. Daniel, à vous de jouer.
Allez, je laisse la parole à Daniel. Chers auditeurs, bonne semaine, bonne quinzaine, que Dieu nous garde.